Alors, une semaine sur deux, on travaille en... Ça commence au début. D'accord, mashallah. D'accord, ah ok. Salam alaikum, j'ai une question s'il vous plaît sur les prières du Isha pendant cette période d'été, l'heure de celle-ci est de minuit. Et ce qu'on fait parfois avant l'heure, le réveil est de 4h30 du matin, merci. Une semaine sur deux, on travaille en deux postes, le matin et après-midi. Merci encore. Donc, problème avec la prière du soir.
Il y a les caractéristiques de l'islam sous sa forme mohammedienne sont nombreuses. L'une des caractéristiques essentielles, c'est raf'ul haraj. L'islam est venu pour faire disparaître la gêne. La gêne, c'est la difficulté. Et si les communautés précédentes avaient parfois des obligations qui étaient assez lourdes, et c'était volontaire, entre autres pour les punir et les mettre à l'épreuve, sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour mission, entre autres, d'abroger toute loi qui était contraignante. Et tout ce que Dieu nous demande de faire est en notre faveur et nous sommes capables de le faire. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha illa ma ataha. Dieu ne nous demande pas l'impossible. On est d'accord? Donc s'il nous a dit de faire les prières à l'heure, c'est que c'est possible. Sinon, il ne l'aurait pas demandé. Et Dieu savait qu'en 2011, il y aurait des musulmans en France, dans le nord de la France, comme il y en aurait en Suède, en Norvège, etc. On est d'accord? Donc on part du principe que l'islam n'est pas une religion inaccessible, bien au contraire, mais on part du principe que Dieu ne veut pas nous mettre dans la galère, bien au contraire, il veut nous sortir de la galère. Le problème, c'est la bonne compréhension de l'islam et la bonne compréhension des lois musulmanes. Pour cela, il faut prendre du temps pour bien apprendre et comprendre sa religion. Généralement, on se met dans la difficulté à cause de notre ignorance. Faqat. Ce qu'on ne connaît pas, alors on galère. Quand tu sais, crois-moi qu'il n'y a pas de difficulté. Regardez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie un groupe de musulmans, ils sont en expédition, et l'un d'eux va être blessé à la tête. Il se réveille le matin, il est en état de janaba. Il doit faire ses grandes ablutions. Donc il doit utiliser de l'eau, faire une douche. Il fait froid, l'eau est froide. Il a peur d'aggraver son état. Ses compagnons lui disent, tu ne peux pas prier si tu ne fais pas tes grandes ablutions. Ils l'ont contraint, il a fait ses grandes ablutions, il en est mort. Ils l'enterrent, ils rentrent à Médine, ils font un compte-rendu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, écoutez bien, à ces musulmans qui ont conseillé leurs frères de faire les grandes ablutions alors qu'il était blessé, dans des conditions donc difficiles, le prophète leur dit, vous l'avez tué, que Dieu vous tue. Vous l'avez tué, que Dieu vous tue, vous l'avez tué, que Dieu vous tue. Ne savez-vous pas que le remède de l'ignorance, c'est quoi? C'est la science. Vous ne savez pas, taisez-vous. Questionnez. Vous l'avez mis dans la galère. Il y a un autre hadith, celui de Ammar. Lui aussi devait faire ses grandes ablutions. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a fait le tayammum. Mais le tayammum selon son ijtihad. Il s'est roué dans le sable. Tout son corps. Et lorsqu'il est rentré à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a ri. Il lui a dit, mais non, il suffit de quoi? De toucher la terre avec les paumes de tes mains, de l'essuyer, de t'essuyer les mains et le visage, c'est bon, ça suffit. Donc vous voyez que lorsqu'on ne sait pas, on se complique la vie. Il y a 5 prières obligatoires, donc 5 heures. D'accord? Chez les chiites, non. Il n'y a que 3 moments pour les prières. parce qu'ils se basent sur le verset du Coran qui se trouve dans la sourate Al-Isra, et ils ne reconnaissent pas les hadiths qui parlent des autres horaires de la prière. Il y a 5 horaires. Horaires de Subh, Dhuhr, Al-Asr, Maghrib et Al-Isha. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Ça, c'est un consensus. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Maintenant, définissons ce que c'est que l'heure de la prière. L'ange Jibril, alayhi salam, est venu. Il a interpellé le prophète, sallallahu alayhi salam, à l'heure de la prière de Dhuhr. Et il a guidé la prière. Il est revenu à l'heure de l'Asr, du Maghrib, de l'Isha et de Subh, aux 5 heures. Et le lendemain, l'ange Jibril, alayhi salam, revient, mais cette fois, plus tard. Dhuhr était à 14 heures. Cette fois, il est venu à 17h55. C'est-à-dire juste avant l'Asr. Avant l'Asr, ça s'appelle pas l'Asr. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle Dhuhr. Et il a fait Dhuhr avant l'Asr. Et vous savez ce qu'il dira, Jibril alayhi salam? Il lui a dit, entre ces deux moments, c'est l'heure de la prière de Dhuhr. D'accord? Ainsi, les savants sont unanimes pour dire que la prière de Dhuhr commence au zénith, 14 heures pour nous maintenant, et elle se termine juste avant l'Asr. Et qu'il est préférable de faire sa prière dans le premier temps. Vous entendez? Et ils t'ont découpé ce temps en 3. Ils te disent, le premier tiers, c'est le meilleur. Le second, ça passe. Le troisième, c'est quand vous n'avez pas le choix. On est d'accord? Mais si vous avez prié Dhuhr entre 14h et 18h, vous êtes dans les temps. On est d'accord? Même chose pour l'Asr. L'Asr commence à 18h et il dure jusqu'au Maghrib. Et si vous avez fait le Maghrib avant, l'Asr avant le Maghrib, vous avez fait l'Asr à l'heure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par l'imam muslim, celui qui arrive à accomplir une rak'at de l'Asr et les 3 autres après le Maghrib, il a fait l'Asr à l'heure. Il n'est pas sorti du temps puisqu'il a réussi, il a commencé l'Asr avant le coucher du soleil. L'hypocrite, lui, qu'est-ce qu'il fait? Bah, tous les jours, il laisse l'Asr jusque 5 minutes avant le Maghrib, il te le fait à toute vitesse, parce qu'il ne calcule pas, il s'en fiche de la prière, il l'a fait pour la forme. Le musulman sincère se bat pour faire la prière dès le début, il ne peut pas, il l'a fait au milieu, il est cuit, il est coincé, il a un problème, il l'a retardé au maximum, tant qu'il l'a fait avant le Maghrib, il l'a fait à l'heure. Et le Maghrib, même chose. Maghrib dure jusque avant l'Aïcha. Et si tu as fait le Maghrib entre le début du Maghrib et le début de l'Aïcha, l'Aïcha commence, admettons maintenant à minuit, et il dure jusque Subh. Avant Subh, ça s'appelle l'Aïcha. Ensuite, Subh commence, maintenant admettons à 4h40, et il dure jusqu'au lever du soleil, à Shuruq. Vous entendez? Oui, 3h40, pardon. Et il dure généralement 1h30. Une fois que le soleil est levé, ce n'est plus Subh. Ben, si vous faites vos prières durant ce laps de temps, vous avez fait la prière à l'heure. Dans le madhab de l'imam Abu Hanifa, il est préférable de faire al-Subh au dernier moment. Vous entendez? Ça s'appelle al-Isfar. Dans les autres madhahib, c'est le ghalas, c'est-à-dire à sa première heure. 3h40, il fait noir. Comme dit Aïcha radiallahu anha, on sortait de la mosquée et il faisait tellement noir qu'on ne distinguait pas les visages. Mais il y a d'autres hadiths où le prophète alayhi salam l'a fait à la dernière heure. Bref, tout ça pour nous montrer qu'il y a quoi? Il y a une souplesse. On est d'accord? Maintenant, malgré tout ce que je viens de dire, il est vrai que nous vivons une gêne pendant une période de l'année qui s'appelle l'été, hein, les horaires d'été. À partir du 20 juin, même ça commence avant, à partir du 15 mai jusqu'au 15 août, l'Aïcha est très tard, Subh est tôt. Nous ne sommes pas des robots, nous sommes des êtres humains, on est fatigués, on bosse, nous avons des obligations. Comment faire? L'islam, la religion musulmane, elle est complète, elle est parfaite. Dieu n'a rien oublié. Rien n'a été laissé au hasard. On est d'accord ? Si vous êtes capable de patienter jusque l'heure de l'Aïcha qui est à minuit 5, maintenant c'est ça. Patientez. C'est à votre honneur. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, c'était l'heure de l'Aïcha, il n'est pas sorti au début de l'heure, il est resté jusqu'au milieu de la nuit, si bien que les gens s'endormaient dans la mosquée. Les sahaba assis, ronflés, assis. Et à un moment donné, Omar ibn al-Khattab interpelle le prophète en lui disant, prophète, les femmes dorment, les enfants dorment, les hommes dorment. Le prophète est sorti, il leur a dit, sachez qu'il n'y a pas sur terre en ce moment un être humain éveillé qui adore son Seigneur sauf vous. D'accord ? Il leur a mis une médaille pour votre patience. Et si je ne voulais pas mettre ma communauté dans la difficulté, regardez ce qu'il dit, si je ne voulais pas, si je voulais mettre ma communauté dans la difficulté, je vous commanderai de faire l'Aïcha à 7 heures, c'est-à-dire au milieu de la nuit, à 2 heures du matin, maintenant. Mais comme je ne suis pas venu pour vous mettre dans la galère, faites l'Aïcha dès qu'il entre. Vous avez entendu ? Si je voulais mettre ma communauté dans la gêne, dans la difficulté, l'Aïcha, c'est maintenant qu'il faudrait le faire à 2 heures du matin. Walakin, il n'est pas venu pour nous mettre dans la galère. Il est venu au contraire pour lever toute galère. Quelle est la solution pour régler le problème de l'Aïcha qui est à minuit, le Fajr qui est à 3h30, tu bosses, tu dois sortir à 4h, à 5h. Ok, c'est quoi le problème ? C'est quoi la solution ? La solution, elle est dans quoi ? Dans le Coran lui-même. « وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » Dieu ne veut pas que vous soyez dans la galère. Je fais comment alors ? Bah, tu prends le verset du Coran de la Sourate Al-Isra qui dit qu'il y a trois horaires. L'horaire de Subh, l'horaire de Dohr avec Al-Asr, l'horaire du Maghrib avec l'Aïcha. Tu deviens chiite. Ouh là, qu'est-ce que j'ai dit ? Astaghfirullah. D'accord ? Je retire ce que je viens de dire, c'était pour la blague. Vous voyez ? Hein, tu prends le Coran et tu te bases sur le Coran qui te dit, voilà les trois horaires. Maintenant, tu vas dans la Sunna. Mais la Sunna t'explique qu'il y a cinq horaires. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le prophète de la miséricorde, l'ennemi de la galère, tu sais ce qu'il dit ? Il dit, eh oui, je ne vais pas vous laisser comme ça, chers musulmans. J'ai une pensée pour vous. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sahih de l'imam muslim a regroupé les prières de Dohr et l'Asr et les prières du Maghrib et de l'Aïcha. Ses élèves lui disent pourquoi les a-t-il regroupés alors qu'il n'est pas malade, il n'est pas en voyage, il ne pleut pas, il n'y a pas d'ennemis, il est à Médine. Les raisons pour lesquelles on peut regrouper les prières ne sont pas présentes. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Réponse de Abdullah ibn Abbas. Elle est trop belle, trop puissante. Vous savez ce qu'il dit ? Pour que sa communauté ne connaisse pas la gêne. Allez, le prophète a fait semblant de les regrouper pour ne pas nous mettre dans la... Allez, pour... Message codé. Ouais. 2011, tu vas galérer. Avec l'Aïcha. Bah, moi, prophète, Dieu m'a tout dit. Ouais, Dieu m'a tout dit. Alors, je vais faire le Maghrib avec l'Aïcha pour que vous puissiez faire le Maghrib avec l'Aïcha à Sabatier en 2011. Et que vous puissiez faire Dohr avec l'Asr si vous n'avez pas le choix à cause du boulot, à cause de l'école ou à cause de mille et une choses. Bah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à regrouper le Maghrib avec l'Aïcha, Dohr avec l'Asr, de temps en temps. Ce n'était pas ça la règle. Ça, c'est l'exception. On regroupe de manière exceptionnelle. Par exemple, mois de juin, mois de juillet, août, et après, le reste de l'année, tu repris de manière normale. D'accord ? Voilà, c'est tout bête. C'est très intelligent et c'est très simple. Il suffisait de savoir.
À quand Une question et après on... Oui. Il y a, parce qu'il y a le Maghrib et on reprendra après la prière, Inch'Allah. À quand à quand, alors je lis ce qu'il écrit, hein, à quand la mosquée de Valenciennes, lieu où pousse difficilement, elle est où la solidarité rapide? Merci.
Vous parlez de la mosquée qui est en construction à Valenciennes?
Sûrement.
Parce qu'il y a déjà une mosquée à Valenciennes qui existe depuis 30 ans, hein, c'est la durée du Quénois. Et je crois que c'est cette mosquée-là qui a un projet de... C'est bien celle-ci, hein? Naham. Al-Kolehal, elle est déjà bien avancée, hein? Grosse œuvre est faite. Je crois qu'ils sont juste dans... C'est ça. Exactement. Hein? Là, il y a eu l'intervention des services municipaux et ils ont dû la quitter jusqu'à ce qu'elle soit aux normes. Et Al-Kolehal, ils avancent difficilement parce qu'effectivement, c'était un projet assez lourd. Alors la solidarité, bah, allez-y, aidez-les, si vous avez les moyens. Nous, alhamdoulilah, notre mosquée, vous avez vu, on a récolté 30 000 euros il y a un mois pour le parking. Si demain, ils viennent faire une collecte, on va les aider. Hein. Il faut qu'ils prennent rendez-vous, on les aidera. Ils font des collectes dans d'autres mosquées, Allah Ibarak. Bon, maintenant, c'est parce qu'elle n'est pas encore finie qu'elle ne se finira pas. Il y a des mosquées, vous savez, ils ont mis 10 ans pour les finir. Hein. Et des cathédrales, ils ont mis 300 ans pour les finir. D'accord. Et la mosquée de Valenciennes, elle est quand même imposante. Donc, à la Kolehal, elle va se finir, Inch'Allah. Et n'ayez pas peur. Maintenant, toute personne qui peut aider, qu'elle aide. Nous, on a déjà aidé. Hein. Je ne sais plus si une collecte a été faite. Mais en tout cas, la mosquée est ouverte pour les collectes. Et il y a d'autres mosquées aussi qui vivent des difficultés. Hein. Ils ont du mal.
Je confirme, Hassan, ils sont déjà venus ici, donc ils ont fait une collecte. Il me semble qu'ils sont venus deux fois même. Allah alam, confirme-moi de l'Aziz. Et bah, si je vous cite, parce que vous parlez de la mosquée de Valenciennes, bah, il y a la mosquée de Fresnes qui est venue faire une collecte, la mosquée de Kievrochain, la mosquée de Thiers, la mosquée de Beuvrage, la mosquée de Main, la mosquée de... Donc on peut pas... Donc on ouvre les portes à
tout
projet qui est viable, c'est-à-dire on veut quand même les papiers comme quoi ils sont en train de construire, c'est le minimum, parce que si ça peut être des charlatans qui viennent, on est en train de construire une mosquée et finalement ils ne construisent rien, puis ils prennent l'argent pour eux. Donc on fait quand même des vérifications, hein, que l'association existe vraiment, etc., et Mohim, donc on essaye de faire jouer la solidarité au maximum au sein des mosquées.
Voilà.
Donc à peu près, par exemple, en plus, on a un peu fatigué les gens l'année dernière parce que pratiquement tous les 15 jours, on faisait une collecte. Donc là, on va un peu restreindre, on va mettre tous les mois pour une collecte. On va redémarrer dans pas longtemps avec quand le parking sera fini, Charles.
Est-ce qu'un homme doit porter son pantalon au-dessus de la cheville parce qu'on dit que tout ce qui est en dessous... En dessus, je pense que c'est en dessous de la cheville, est voué au feu.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Juste un complément par rapport à la réponse de la question de tout à l'heure. Regrouper la prière de l'Maghrib et de l'Aïcha ou de Dohr et de l'Asr, il n'y a pas d'impératif une fois que vous avez regroupé vos prières. Parce que certains ont inventé un impératif, il vous dit si vous faites le Maghrib et l'Aïcha, il faut dormir juste après. Ouais. Donc si tu ne dors pas, tu ne peux pas faire le Maghrib et l'Aïcha. Ça, ils l'ont rajouté. Ouais. Le hadith, il ne dit pas ça. Le hadith dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a regroupé les prières, point final. Pourquoi? Le compagnon, qui est le mieux placé pour savoir pourquoi, dit qu'il les a regroupés pour que sa communauté ne soit pas dans la gêne. Donc, il n'y a aucun savant qui a dit « Tu fais le Maghrib et l'Aïcha et tu vas dormir. Ouais. » Les savants te disent « Tu fais le Maghrib et l'Aïcha et tu fais ce que tu veux de ta vie. » D'accord. Il y a un grand savant qui s'appelle Abdullah ben Saddiq al-Ghumari. C'est un grand savant du hadith, un spécialiste du hadith. Il fait partie de ces rares savants du XXe siècle qui connaît le Sahih al-Bukhari par cœur, avec la chaîne jusqu'au prophète alayhi salam. C'est-à-dire lui, son maître lui a transmis le Sahih de l'imam al-Bukhari, donc avec la chaîne, c'est-à-dire le maître dit que son maître lui a dit, que le maître de son maître lui a dit, que le maître de son maître de son maître lui a dit, à peu près 34 personnes jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous entendez? Pour chaque hadith, hein, ça relève du miracle, n'est-ce pas? Abdullah ben Saddiq al-Ghumari. Il a écrit un livre qui est mignon, qui s'appelle Raf'u al-Khotar ala man jama'a salawati fil hadar. C'est-à-dire nul grief pour celui qui regroupe ses prières, même lorsqu'il n'est pas en voyage. Vous savez, c'est quoi? C'est un recueil de hadiths, plein de hadiths du prophète alayhi salam, qu'il a tiré de tous les livres de hadiths, qui prouvent qu'il est arrivé au prophète sallallahu alayhi salam à plusieurs reprises de regrouper les prières de Dhuhr et l'As, de le Maghrib et de l'Aïcha. Ouais. C'est pas un, c'est pas deux, hein. C'est des dizaines. Je l'ai lu et j'ai été étonné parce que bon, on en apprend toujours, hein. Bref, la parenthèse est fermée. Le pantalon, ou autre chose. Et tout vêtement qui descend en dessous de la cheville. Il y a un hadith sahih du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est dans le Bukhari Muslim et tous les livres de hadith qui dit que tout ce qui est en dessous de la cheville est voué à l'enfer. C'est-à-dire celui qui porte un vêtement qui descend en dessous de la cheville, il fait un péché qui va le mener en enfer. Et pour les femmes, ça c'est pour les hommes, pour les femmes, tout ce qui est au-dessus de la cheville est considéré comme un péché qui fait que cette femme ira en enfer parce qu'elle a porté un vêtement qui est au-dessus de sa cheville. En d'autres termes, l'homme doit porter des vêtements qui sont au-dessus de la cheville et les femmes doivent porter des vêtements qui sont en dessous. Allez. Long, le plus long possible, et l'homme, le plus court possible. Donc ça, c'est un hadith. Mais le problème, ouvrez bien vos oreilles, c'est que, comme le Coran a besoin d'être interprété, du moins, pas tous les versets, mais beaucoup de versets, c'est-à-dire, les savants, expliquent le Coran. Oui? Parce que le Coran... C'est-à-dire, il n'est pas accessible à tout le monde. Il y a des versets qui sont accessibles, que tout le monde peut comprendre. Tu peux comprendre, il faudrait quand même que tu comprennes l'arabe. Puis il y a des versets, même si tu comprends l'arabe, si tu n'as pas la science, si tu n'as pas, beaucoup de comment ? Ouais, plein de connaissances. Bref, tu vois le quoi ? Ouais. Si tu n'as pas le bagage, tu te plantes. Ouais. Vous avez bien vu, le Coran, il fait 600 pages. Ça fait 1400 ans que des centaines, des milliers de savants ne cessent de l'interpréter. 600 pages se transforment en 6000 pages. Ouais, en 12000 pages, en 30000 pages. Donc ça veut dire qu'il y a... Non, vous comprenez ? Ouais, ça... Parce qu'il y en a qui disent, ah bon, c'est bon, j'ai le Coran, il me suffit. Non. Le Coran ne suffit pas, il faut autre chose. Il faut une tête, des connaissances... des compétences, des capacités, pour que tu puisses le sonder, le Coran. Vous voulez la preuve ? Non, avant de vous donner la preuve. C'est la même chose pour le hadith. C'est pas parce que tu as lu un hadith que tu l'as compris, ou que tu l'as bien compris. Et peut-être que tu le lis et tu es incapable de le comprendre parce que tu n'as pas les outils pour le comprendre. Comme le verset. Vous me suivez ? C'est exactement la même chose. Sinon, expliquez-moi pourquoi alors des centaines, des milliers de savants depuis 1400 ans te prennent les recueils de hadith, Bukhari, Muslim, Nasa'i, Ibn Majah, tous les recueils, et te les expliquent en 1000 pages, 2000, 5000, 10000, 20000 pages. En ce moment, je suis en train de lire l'explication d'un livre de hadith qui s'appelle Sharh Sunan al-Nasa'i, l'explication des recueils de hadith réunis par l'imam, compilés par l'imam Abdurrahman al-Nasa'i. Vous savez combien il fait de volumes, ce livre qui explique les hadiths? Combien il fait? Vous êtes prêts? Il en fait 26. 26, et wallah, ils font tous au minimum 400 pages. Pour expliquer quoi? Quelques milliers de hadiths du prophète. C'est écrit par un savant qui est encore vivant aujourd'hui. Il a mis 20 ans pour écrire. C'est un bijou. Ah ben, je vous assure que je lis des hadiths que je connaissais déjà et je découvre que, oh là là, t'avais pas vu ça toi? Aïe aïe aïe, t'avais... mais tu te rends compte? Oh là là, on a encore beaucoup à apprendre. Donc ce n'est pas parce que tu as lu un hadith, que tu l'as bien compris, ou que tu le comprends bien. Peut-être, voire même, tu es à côté de la plaque. Comme un verset. Je peux que tu le lises et tu es à côté de la plaque. Sinon, comment vous m'expliquez qu'il y a des sectes en islam? Donne-moi la chaise. Vous savez les sectes qui existent en islam, que ce soit les chiites, les khawarij, les mourjites, les trucs et tous les hites qui existent là. Ouais, il y en a des centaines. Ouais. Eh ben, vous savez, tous ces hites, toutes ces sectes se revendiquent du Coran et de la Sunna. Toutes. Toutes se basent sur le Coran et la Sunna. C'est incroyable quand même. Eh ben, ces sectes sont à côté de la plaque et égarées. Du moins, nous ne les considérons comme égarés. Et eux, ils nous considèrent comme égarés. Mais entre nous, on est convaincus qu'ils sont égarés, ne serait-ce que parce que nous, on fait partie de cette majorité écrasante des musulmans, 80% des musulmans, 85, 90, je n'ai pas les chiffres exacts. Mais ce n'est pas possible que 90% des musulmans soient à côté de la plaque et que 2% aient raison. C'est un non-sens, ça n'a pas de sens. Ouais, la majorité a raison, la minorité a tort. On est d'accord? Donc, le hadith nécessite, comme le Coran, quoi? Une interprétation. Sinon, tu peux te tromper. Et une des règles essentielles pour comprendre les hadiths, vous savez, c'est quoi? C'est de comprendre les hadiths à la lumière du Coran. Ça, c'est obligatoire. Car les hadiths sont venus expliquer le Coran. Ouais. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses missions, c'était d'expliciter le Coran à travers ses dires, ses gestes et ses approbations. Ok? Deuxièmement, c'est de comprendre le hadith à la lumière des autres hadiths. Comme pour le Coran, la meilleure façon de comprendre un verset du Coran, c'est de le comprendre à la lumière des autres versets. Car ce verset qui est ici concis, là-bas, il est explicite. Hein, ce verset ici qui est flou, il y a un autre verset qui vient et qui te le recadre. La même chose, tu prends un hadith et tu oublies 83 hadiths qui parlent de la même chose. Il y a 83% de chances que tu l'aies mal compris, parce qu'il te manque 83 hadiths. Et ça, ne le comprend que celui qui a goûté à la science du hadith ou qui a goûté à l'explication des hadiths. Celui qui n'est pas du métier, il ne comprend pas ça. Exemple tout simple, ce hadith. Ce hadith des vêtements en dessous de la cheville ou au-dessus. Ouais. Regarde. Le hadith, il est là, celui qui porte un vêtement en dessous de la cheville, l'enfer. C'est-à-dire, c'est un péché, un grand péché, c'est pas un petit, c'est un grand. On est bien d'accord. Pourquoi? Parce qu'il te mène en enfer. Les petits péchés ne te mènent pas en enfer. Les prières les effacent. Ouais? Les plein de choses. L'imam al-Bukhari, radiallahu anhu, hein, le top du top, c'est la crème de ceux qui ont transmis les hadiths. Vous êtes bien d'accord? Pour nous, après le Coran, le livre le plus authentique, c'est le Sahih de l'imam al-Bukhari. Non, ça c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Certains te disent c'est le Sahih de l'imam muslim, surtout les savants maghrébins. Ils adorent muslim. Ouais. D'ailleurs, ce sont eux qui l'ont expliqué en majorité, le Sahih de l'imam muslim. Peu importe, le Bukhari est muslim. On est d'accord? D'ailleurs, muslim est l'élève de al-Bukhari. Hein, muslim, c'est l'élève de al-Bukhari. Et muslim considère que certains hadiths ne sont pas sahih, et Bukhari considère que certains hadiths ne sont pas sahih. Eh oui, al-Bukhari considère que certains hadiths chez muslim ne sont pas sahih. Parce que le Bukhari, il a posé des conditions draconiennes pour tamiser les hadiths. Il a mis la barre très haut, les autres juste en dessous. Juste en dessous, juste en dessous. Bref, l'imam al-Bukhari, radiallahu anhu, ce hadith-là, il le rapporte dans son sahih. Mais l'imam Bukhari, il était trop intelligent. Son livre n'est pas un recueil de hadith. Son livre, c'est un livre de fiqh et de aqidah. Pourquoi? Parce que quand il met un hadith, il met d'abord le titre du chapitre, de l'interdiction de l'autorisation de, du fait que ceci est déconseillé, recommandé. Il met un titre et ensuite, il met un hadith ou deux ou trois. Ou parfois zéro. T'as le titre, t'as pas le hadith. Ben oui, parce qu'il n'y a pas de hadith sahih à ses yeux. Mais ça reste toujours que le titre, il est valable. Qui fait référence à une autorisation, une interdiction. Attention, c'est toute une science. Très bien. L'imam al-Bukhari te dit, chapitre de l'interdiction de porter des vêtements en dessous de la cheville, c'est ça? Regarde ce qu'il dit. Chapitre de l'interdiction de porter des vêtements qui descendent en dessous de la cheville par ostentation. Khoyalan. C'est écrit comme ça, khoyalan, pour crâner. Khoyalan, voilà, c'est comme ça. Et il te ramène le hadith sur les vêtements qui sont longs, accompagné de l'histoire d'Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Ben, t'as tout compris, Youssouf. Ah, parce qu'à l'époque, c'est comme ça qu'ils crânaient, les gens. Eh ben oui. Aujourd'hui, tu crânes comment?
Aujourd'hui, tu laisses traîner.
Non, aujourd'hui, tu crânes comment?
Si tu laisses traîner, on prend des beaux
vêtements. T'as un clochard si tu les laisses traîner aujourd'hui. Ouais. Non, aujourd'hui, comment on crâne? Les marques, aujourd'hui. Le crocodile, le serpent, le rat. C'est ça ou c'est pas ça? C'est comme ça qu'ils crânent, aujourd'hui. Bah oui. Quelle est la différence entre un crocodile et un rat? Tous les deux des reptiles. Bah oui. La différence, c'est que le polo avec un crocodile, il vaut 80, avec le rat, il vaut 10. Et c'est le même, fabriqué dans la même usine. Il y a juste une arnaque qui s'appelle la pub. Et on fait croire que Hada, il était... Et on se fait avoir, on se fait pas avoir. C'est pas la pub. C'est l'idée. Comme tu veux, tu l'appelles ce que tu veux, en tout cas c'est une arnaque. Tu es bien d'accord? C'est une arnaque. Des quenelles partout. Non mais c'est grave. Allah, que c'est très grave. Il y a un frère, il est électricien. Électricien? Non. Les machines. Bref, il répare les machines. Il a travaillé dans une machine où il fabrique des frites. Quelles frites? Automaticien. Les frites McCain. La classe, hein? C'est nickel, là, ouais. Le frère, il est écœuré. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai travaillé dans cette usine pendant un temps. Les frites arrivent, elles sont dans des sachets McCain. Une fois qu'ils ont fait leurs 43 000 kilos de frites McCain, ils enlèvent les sachets, ils remettent d'autres sachets. Et c'est les mêmes frites. Vous entendez? Les frites à Lidl, c'est exactement la même que McCain. J'ai halluciné, j'en croyais pas mes yeux. Mais c'est pas possible, ils se moquent de nous. McCain, on enlève le carton de sachet et remet un autre sachet pour une autre marque et ainsi de suite. Et non, on tombe dans le piège. Voilà, Alex, c'est de la marque. Ouais. Comme si les paysans ils mettaient une pomme de terre qui s'appelle McCain, l'autre ils mettent une pomme de terre qui s'appelle Abdel Qadr, l'autre une pomme de terre Lantefa. Mais la pomme de terre. Bref, ils crânaient comment avant? Ils laissaient traîner leurs vêtements. C'était un signe de richesse, un signe de noblesse, un signe d'ostentation.
Ils montraient qu'ils avaient plus de tissu en fait.
Ben oui, parce que les vêtements avant, chez les Arabes, c'était rare. Les Arabes, c'est comment ils s'habillaient? Ils mettaient une serviette en bas, une serviette en haut. Izar ou Arida. Comme on met quand on fait le pèlerinage. Ah, mais tu croyais qu'ils mettaient. Ça va pas. Ils n'avaient pas d'atelier de. Les Arabes ne fabriquaient pas leurs vêtements. Ils achetaient les vêtements au Yémen ou en Syrie. C'était des vêtements importés. Et ça coûtait trop cher. Ouais. Donc le mec qui te met un truc et en plus ça traîne. Wah, hasra. C'est la reine d'Angleterre qui a une robe qui fait 3 km. C'est ça? Vous l'avez vu la robe? Même derrière, il y en a qui la tiennent. Voilà, c'est un signe d'opulence et un signe d'arrogance vis-à-vis des pauvres. C'est pour cela, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a condamné le fait de s'habiller de cette manière, Abu Bakr a réagi. Il a dit, prophète, mais moi mes vêtements ils traînent, sauf si je les soulève. Ça me, je fais pas toujours attention, je les laisse traîner. Il lui dit, non, pas toi. Toi, tes vêtements ne sont pas longs et ne traînent pas par vanité et ostentation. Ah ben, tu sais, les savants, quand ils te prennent tous les hadiths qui parlent de la longueur du vêtement, qu'est-ce qu'ils te disent? Écoute ce qu'ils vont te dire. Il y a 8 écoles, 8 avis. L'imam Ibn al-Qayyim, l'élève d'Ibn Taymiyyah, dans son livre Zad al-Ma'ad, où il explique la vie du prophète alayhi salam et ses qualités. Ses... 8 avis. 8 avis. Le premier, haram. Le dernier, halal. Et entre les deux, tu as une panoplie d'avis. Conseiller, déconseiller, recommander, t'as tout. Pourquoi? Parce qu'il t'interprète les hadiths. Ouais. Alors si tu me portes des vêtements qui sont longs par ostentation, tu vas en enfer parce que tu as fait un grand péché qui s'appelle le kibr. La vanité, l'ostentation. Ouais. Mais si c'est dans tes coutumes, c'est normal que tes vêtements soient longs, tu n'as rien à craindre. Ouais. Et la femme doit être la plus pudique possible. Non, laisse pas traîner parce que tu le salis quand même. Ouais. D'accord. Ensuite.
Il y avait un frère qui voulait intervenir.
Non.
Le frère n'est pas honnête. Le frère n'est pas honnête. Celui qui vous dit il n'y a pas de divergence, il n'y a qu'un avis. En dessous, c'est l'enfer. C'est soit mi-mollet au-dessus du mollet entre le genou et la cheville. Il est malhonnête. Hein? Qu'il dise, moi, je suis pour l'avis qui dit que c'est haram. Je respecte. Et il a le droit de le dire. Parce que c'est fondé. Car il y a des hadiths et les savants les interprètent comme ça. On est d'accord? Et le hadith d'Abou Bakr, il te l'écarte en disant c'était propre à Abou Bakr. Matrache. Qu'il te dise, il n'y a pas un autre avis, c'est malhonnête intellectuellement parlant. Je te sors maintenant Fath al-Bari, Sharh Sahih al-Bukhari, et tu vas voir, je te prends Ibn al-Qayyim, et tu vas voir tous les savants respectueux qui respectent l'honnêteté intellectuelle, tu le cites. C'est pas bien. Allah, c'est pas bien de parler comme ça, c'est pas bien. Dis, il y en a qui disent ça, il y en a qui disent ça, et les deux avis sont fondés, et laisse les gens. Celui qui veut porter des pantacours, Allah ybarak Allah aouno, et s'il les porte avec l'intention de pratiquer le hadith, il est en train d'adorer Allah. Et celui qui veut porter un vêtement qui est long, sans ostentation, il est en train d'adorer Allah aussi. Parce qu'il s'habille comme il veut, comme il aime, comme s'habillent les gens de son peuple et de son époque.
Alors, un peu dans le sens que le frère vient de dire, je fréquente plusieurs mosquées où j'entends des discours contradictoires. Quel est le groupe qui est dans la vérité?
Naram, tu voulais dire la même chose. En ce qui concerne la barbe, tu as tous les avis. Tu as ceux qui te disent se raser la barbe c'est haram et c'est fondé. Parce qu'il y a des hadiths qui disent laissez pousser votre barbe, rasez-vous les moustaches ou coupez-vous les moustaches. Et comme c'est un impératif, donc c'est un ordre. Et un ordre, il faut le mettre en pratique tant qu'il n'y a pas quelque chose qui le diminue en acte recommandé. Voilà, parce que tu as des hadiths, et tu en as beaucoup de hadiths. Et puis, tu as d'autres savants qui te disent non. Ce n'est pas parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a dit « fais cela » que c'est toujours un ordre. Allez, « khalik min la majorité ». Ouais, on va mettre de côté la majorité. Restons dans juste comment comprendre l'approche des textes. Ouais. Et tu as d'autres savants qui te disent non, la barbe c'est recommandé. D'accord? Et si tu l'as rasé, tu n'as pas fait de péché. Et tu sais sur quoi il se base? Il se base sur d'autres hadiths. Pas des hadiths qui te disent rase-toi la barbe, ça n'existe pas. Mais il te base sur des hadiths qui prouvent A plus B que. Ouvre bien tes oreilles. Dans d'autres domaines où le prophète a dit « faites et ne faites pas » et ça n'a jamais été compris et interprété par les compagnons comme une obligation ferme ou une interdiction ferme. Moi, il n'y a pas longtemps encore, tu sais ce que je disais? Quand on me posait la question « est-ce qu'une femme, elle peut accompagner le mort au cimetière ?» Je disais « non, c'est haram. » Le prophète alayhi salam a interdit cela. Et une fois, j'ai reçu un coup de téléphone d'une mère à Villeneuve-d'Ascq qui a eu un accident de voiture. Elle a perdu sa petite fille. Sa belle-sœur me téléphone et elle me dit elle veut aller au cimetière accompagner, enterrer sa fille. Et cette mère qui a eu ce choc, elle est en train de devenir folle. Vous me suivez? Elle dit que c'est elle qui a tué sa fille parce qu'elle n'a pas mis la ceinture de ses... Bref, vous imaginez-le. Et donc elle me dit, on ne peut pas lui dire n'y va pas. Ça va faire que... Je lui dis, bouge pas. Tu me rappelles. Vous savez ce que j'ai fait? j'ai été dans ma bibliothèque et j'ai commencé à quoi? Et c'est long, attention, hein. C'est prise de tête. Hein. Ben vous savez, j'ai découvert que punaise, il faut pas se presser. C'est pas parce que tu as lu un hadith que c'est faux. Wallah, c'est faux. T'en as lu un, il t'en manque 50 à côté. Et t'en as lu les 50, il te manque l'explication des savants. Et j'ai découvert un hadith que je connaissais pas. Umm Rabi'a dit Nuhina an ittiba'il janaizi wa lam yu'zam alayna, hadith dans le Bukhari. Je traitais parce que je dis c'est pas possible. Je l'ai pas vu celui-là. Non, je l'ai vu, je l'ai oublié. Le prophète nous a, regardez, interdit de suivre, de participer au convoi funivaire, mais lam yu'zam alayna. Mais il n'a pas insisté. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, il aura juste dit, n'y allez pas. Mais si vous y allez, bah, allez-y, tant pis. C'est tout bête, c'est tout simple. Wallah al-Azim, on manque de science, c'est pour ça qu'on crée des problèmes. D'accord? Donc, en ce qui concerne la barre, la question est longue. Ok. Je n'entre pas dans les détails, sinon, le Fajr en est encore là. Hein? C'est une sunna, la sunna de tous les prophètes, c'est très bien de la faire. Mais si quelqu'un ne la fait pas, je ne le condamne pas, je ne considère pas qu'il est kafir en dehors de l'islam. Et moi, Ngolek Saraha, moi j'ai des priorités, des urgences. On invite les gens à pratiquer la religion. Ouais. Celui qui pratique, alhamdoulilah, celui qui ne pratique pas certaines choses, on lui trouve des circonstances atténuantes et on essaie de l'aider à pratiquer. Il ne faut jamais condamner. Parce que si toi tu ne fais pas une chose, moi j'en fais pas 10. Le seul problème, c'est que toi, ce que tu ne fais pas, je le vois. Ce que je fais pas moi, toi, tu le vois pas. Vous entendez le... Ouais. Et l'être humain, il a toujours tendance à quoi? À reprocher à l'autre ce qu'il ne fait pas alors que lui, il le fait. Par exemple, moi, j'ai la barbe, je te vois sans barbe. Eh, pourquoi t'as pas de barbe? Ah, c'est facile, je l'ai. Renvoie-moi à l'ascenseur. Renvoie-moi à l'ascenseur. Ouais. Dis-moi...
Je me réveille à 2h du matin, je prie toute la nuit.
Voilà. Hein, renvoie-moi. Je me réveille à 2h du matin, je prie toute la nuit. Et toi, tu pries pas la nuit? Vous comprenez? C'est trop facile ça. Tais-toi, tu pratiques quelque chose, dis alhamdoulilah. Maintenant, conseille tes frères de manière sage et intelligente, mais à la lumière du savoir et de la science. D'accord? Et s'il y a un irtilaf parmi les savants, respecte la divergence. C'est pour ça la question que tu as posée, c'est, tu fréquentes plusieurs mosquées, il y a des discours différents, contradictoires. Qui est dans la vérité, qui est dans l'erreur? Ça, c'est une question qui nécessite des heures d'explication. Nous, on croit que la religion, c'est noir ou blanc. Noir ou blanc. C'est-à-dire vrai ou faux. Haq batil. En vérité, ne dit ça que l'ignorant. Ouvrez bien vos oreilles. Il n'y a que l'ignorant qui vous dira, c'est noir ou blanc. Si vous entrez un peu, vous allez découvrir qu'il y a de la divergence. L'irtilaf. Et vous savez pourquoi il y a de la divergence entre les savants? À cause du Coran et des hadiths. Car le Coran est sujet à l'interprétation. Et dès que l'humain intervient dans le texte, c'est tout à fait normal que toi, tu le comprennes comme ça. Et parfois, moi, je le comprenne autrement. Toi, tu abordes le texte sous un angle, moi, je l'aborde sous un autre angle. On n'a pas le même niveau intellectuel. Toi, le hadith, tu le considères comme sahih. Moi, je ne le considère pas comme sahih. Tu fais quoi? Al-Bukhari considère un hadith sahih et considère le hadith qui est dans Muslim un tel comme pas sahih. Je fais quoi, moi? Ah, moi, j'ai confiance à 1000% al-Bukhari. Il y a des hadiths qui sont dans Muslim qui sont considérés par l'imam al-Bukhari comme non authentiques. Tu fais quoi? Tu suis le hadith qui est dans l'imam Muslim? Ben, al-Bukhari, tu dis non, t'es à côté de la plaque, il n'est pas sahih. Vous avez vu qu'il y a de la divergence? Toi, tel savant, sahaha al-hadith, il a authentifié le hadith, un autre, da'afa. Il a dit non, il n'est pas authentique. Pourquoi? Parce qu'un des narrateurs, tel savant le considère comme fiable, un autre savant le considère comme non fiable. Nous, on croit que c'est faux, c'est pas comme ça. Je vais vous annoncer une chose. La majorité des questions de fiqh en islam sont des questions qui sont sujets à l'irtilaf parmi les savants. Rien que la prière, le premier pilier de l'islam rituel. Si vous prenez la salat, ils sont d'accord sur deux choses et le reste, ils sont divergents. Ils sont d'accord sur takbirat l'ihram, l'entrée dans la prière, Allahu Akbar, et sur la sortie de la prière, salamu alaikum. Tout le reste, il y en a, il te dit, tu lis la fatiha, si tu ne la lis pas, ta prière est nulle. L'autre, il te dit, non, non, il y a l'imam, tu n'as pas besoin de lire la fatiha. Si l'imam a lu la fatiha, ça suffit. L'autre te dit, ah non, si tu n'as pas lu la fatiha, ta prière est nulle. Ben, tu fais quoi? Alors, je vous croyais que les compagnons étaient d'accord sur tout. Les compagnons sont les premiers à avoir divergé. Alaykoum salam, cher Hassan. Allah yafdak. Hayyak Allah. Hada, hada, c'est un... Hein? Il est puissant, hada. Cher Hassan, t'as rebevrach. Hada Hassan Zaki.
L'imam de la mosquée de Beuvrache.
L'imam de la mosquée de Beuvrache. Si vous voulez de la science et du savoir, allez vous asseoir chez lui. Il est trop wa'ar. C'est une pointure, hein. Moi, je vous le dis. Hein. Il est à Beuvrage. Ah, je pense qu'il était... Non. Et c'est bien, il parle français. C'est un arabophone, c'est le Coran par cœur et tout le reste par cœur. Aussi, c'est un ordinateur, un Pentium 4. Et il a passé 20 ans à étudier chez les savants. En Syrie, au Maroc, en Égypte, partout dans le monde. Et t'appuies sur le bouton... Oh là 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 là. Moi, j'ai un plaisir à m'asseoir avec lui. Parce que, mashallah. Parenthèse fermée. La prière, as-salat. Non, les compagnons sont les premiers à diverger. Vous avez Abdullah ibn Abbas qui dit ça. Abdullah ibn Omar dit le contraire. Vous avez Abu Huraira qui dit ça. Aïcha dit le contraire. Bah oui, c'est normal. Vous n'avez jamais pris connaissance de le Musannaf d'Ibn Abd al-Razzaq, où il y a le fiqh des Sahaba, ou d'Ibn Abi Shayba. Tout simplement. Et vous entrez dedans, vous allez voir les Sahaba. Il y a des madahib, des écoles. Alors, vous croyez que les salaf salih étaient tous unanimes sur toutes les questions? C'est faux. Sinon, comment vous m'expliquez que l'imam Malik, il avait des opinions dans certains domaines, différente de qui? D'élèves des compagnons. Alors qu'il est lui l'élève des élèves des compagnons. Mais la divergence, c'est une réalité. Et elle est due à quoi? Elle est due au verset du Coran et au hadith. Qu'est-ce que tu fais avec des hadiths qui disent deux choses contradictoires? Tu fais quoi? Hada, tu l'annules, tu l'abroges. Non, tu le gardes. Tu prends celui-ci, tu prends pas celui-là. Allez, c'est toute une science. Wallah l'adim, s'il y a des savants, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Si on entre dans chaque question, on veut la détailler, c'est parce que nous, quand on parle, Al-Jumu'a, on fait une conférence, tu peux pas te permettre... Par exemple, la question de la prière tout à l'heure qui a été posée, regroupée, le Maghrib et l'Aïcha. Vous voulez qu'on fasse un développement? Prépare une date, envoie-la, conférence sur... Est-ce que c'est possible de regrouper les prières? Tu me donnes 2 mois, je reviens, Wallah, on en a pour 2 heures. Je vais vous sortir tout ce que les savants ont dit, tous les hadiths, tous les trucs, vous allez péter les plombs. Oh non, c'est... Oh non, arrête, stop, j'en peux plus, là. Je comprends plus rien, c'est trop compliqué. Mais oui, c'est ça la réalité. Chacun, sa place et son domaine. Ouais. Donc, la divergence, elle existe, elle est réelle, et elle ne doit pas nous empêcher de dormir. Vous entendez? Il ne faut pas vous apeurer. Ça fait 1400 ans que ça existe. Ce n'est pas la fin du monde. J'ai même envie de vous dire, heureusement qu'elle existe. Allahu Akbar. Heureusement que les compagnons n'étaient pas d'accord sur tout. Heureusement que les élèves des compagnons n'étaient pas d'accord sur tout. Heureusement que les élèves des élèves des compagnons n'étaient pas d'accord sur tout. Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire? Je suis en train de vous dire, heureusement qu'ils n'étaient pas d'accord. Certains vous diront, mais c'est grave ce que tu dis. Normalement, il faut être uni. C'est ça? Là, je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas être uni. Est-ce que être uni signifie ne pas partager les mêmes idées? C'est faux. On est uni et on n'est pas d'accord sur tout. On est uni sur l'essentiel et on n'est pas d'accord sur des choses secondaires. Vous savez ce que je viens de vous dire? Heureusement que les compagnons du prophète n'étaient pas d'accord sur tout. Comme ça nous permet, nous, aujourd'hui, parfois de choisir tel avis parce que il convient le plus à notre situation et non pas tel avis. Vous savez ce que je suis en train de vous dire? C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. C'est qui? C'est le grand Omar ibn Abdelaziz radiallahu anhu, qui est considéré comme le cinquième calife bien guidé, le sixième après le Hassan ibn Ali qui a gouverné que 6 mois, et qui est considéré comme ulama at-tabi'i tabi'in, comme un savant parmi la troisième génération. Il l'a dit à qui? Il l'a dit à Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr. Al-Qasim, le fils de Muhammad, le fils d'Abu Bakr Siddiq, qui fait partie de l'Fuqaha Sab'a, des 7 grands jurisconsultes de Médine, qui a été choqué lorsque il disait quelque chose et Omar ibn Abdelaziz lui disait le contraire. Et à chaque fois que Al-Qasim disait, Omar lui disait le contraire. À la fin, il était mal à l'aise. Qu'est-ce que lui a dit Omar? Il lui a dit, heureusement que les compagnons n'étaient pas d'accord sur tout. Comme ça, nous, les générations après. Mashallah, tu veux parler dans le micro?
Salam
alaikum. Wa
alaikum. Là-bas. La mère, tu veux même
pas. Mashallah. Allah ybarak fiha. Allah yahfadha. Qu'elle soit meilleure que son père. Vous êtes d'accord? Et que sa mère. C'est suffisant. Allah ybarak fi la famille Badash. Alhamdulillah. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Omar était heureux? Ça ne le dérangeait pas qu'il y ait de la divergence? Pour qu'il y ait de la souplesse. Voilà. Vous avez entendu le terme qu'il a utilisé? La tarfif, la souplesse. Donc, dans un grand cercle qui s'appelle Ahlus Sunna wal Jama'a, les gens qui suivent le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a été transmise par les compagnons, les élèves des compagnons, dans ce grand cercle de musulmans qui représente 80% de la communauté musulmane, dans ce cercle, à l'intérieur, vous savez, vous avez quoi? Vous avez des écoles, vous avez de la divergence, vous avez des tendances. Et ils sont tous dans le droit chemin. Tous. Ouais. L'imam Shafi'i dans le droit chemin, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Ahmed ibn Hanbal, l'imam Soufiane al-Thawri, l'imam Abu Thawr, l'imam Al-Awza'i, Abdurrahman Al-Awza'i, l'imam Al-Tabari, l'imam Al-Zuhri. Et oui, c'est tout ce que je viens de citer des sommités dans notre religion et qui nous ont transmis, qui ont interprété la religion. Et ils n'étaient pas d'accord sur tout. Ils étaient d'accord sur l'osol, les fondements, les piliers, et ils divergeaient sur el-furu', les choses secondaires. Et tous se réfèrent au Coran et à la Sunna. Tous, sans aucune distinction. Ils te disent tous. Le problème, c'est que toi, le hadith, tu l'acceptes, moi je ne l'accepte pas. Toi, le hadith, tu l'as compris comme ça, moi je l'ai compris autrement. Toi, il t'a été transmis comme ça, moi il m'a été transmis autrement. L'imam Badr al-Din al-Zarkashi, radiallahu anhu, a écrit un livre, une bombe. C'est comment il s'appelle? Al-Istidrak. Fima adrakatu Aisha ala al-Sahaba. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire Aisha, la femme du prophète, radiallahu anha, corrige les compagnons. Des compagnons, Abdullah ibn Omar, Abu Huraira, Abu Saïd al-Khudri, en présence de Aïcha, prononce un hadith. Vous savez ce qu'elle dit? Aïcha dit, c'est faux, je ne suis pas d'accord. 52 hadiths que Aïcha a remis en question, qui ont été transmis par qui? Par ses pères. Abu Huraira parle dans la mosquée, elle l'entend, elle le coupe, elle lui dit c'est faux, le prophète n'a jamais dit ça, t'as rien compris. 52 hadiths, Aïcha, de son vivant, du vivant des compagnons. C'est ce qu'elle dit? Elle dit c'est pas vrai. Le compagnon dit, le prophète l'a dit. Il a dit non, le prophète n'a pas dit ça, c'est pas possible. Mais le Coran il dit ça. Toi t'as pas compris, t'as mal compris. Et parfois Bouhraïa lui dit oui c'est vrai, effectivement, c'est Ka'b, l'Ahbar qui me l'a dit, je pensais que c'était le prophète. 52 hadiths. Aïcha les remet en question. Vous vous rendez compte?
Qu'est-ce
Qu'est-ce que ça doit être après ?
C'est-à-dire le jour même. C'est-à-dire pendant les compagnons, c'était comme ça, alors après ?
Parfois, elle avait tort, bien sûr. Bien sûr. Son avis n'a pas toujours été vrai. Mais pour elle, son avis, c'était le vrai. Quand le prophète, alayhi salam, dit trois choses annulent la prière si elles sont devant vous. S'il y a un âne qui passe devant toi, ta prière, elle est morte. S'il y a un chien noir qui passe devant toi, ta prière est morte. Et si une femme passe devant toi, ta prière est morte. Aïcha, elle a entendu ça, elle a fait des bons. Non mais c'est sérieux, c'est ce qu'elle a dit. Elle a, de sa chambre, ouais, elle a interrompu Abu Huraira, elle lui a dit, vous nous comparez à des chiens et à des ânes. Hadith, il est dans le Bukhari. Silence. C'est ce qu'elle dit. Elle dit, moi, j'avais mes règles, le prophète priait, j'étais allongé devant lui, il mettait sa tête, et comme il n'y avait pas beaucoup de place dans la chambre, il me touchait, je retirais mes pieds, il mettait sa tête à la place de mes pieds, il se remettait debout, je remettais mes pieds. Alors, qu'est-ce que tu racontes, toi ? Une femme, elle passe devant la nuit la prière ? Pourquoi le prophète, il prie devant moi, alors ? Et je suis allongé devant lui, en plus, je suis en état de règle. Waouh ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, dans Sahih al-Bukhari, il arrive avec son âne, le prophète est en train de prier, il plante une lance, les gens sont derrière, et Abdullah ibn Abbas traverse les rangs des gens derrière avec son âne. Il va de l'autre côté, il descend, il attache son âne, il fait la prière. Regardez, il a coupé les rangs. Ouais. Alors, les gens disent, ouais, al-hadith. Donc, vous voyez que c'est pas si facile que ça, oui ou non ? Ouais, c'est pas facile, hein. Vous savez comment ? On entre en plus dans les détails ? Non, ça va fumer là-dedans. T'as vu l'heure qu'il est ?
Salam alaikum.
Salam alaikum, nous pensons, entre parenthèses, plusieurs frères et moi, que le frein de nombreux musulmans, c'est la mauvaise connaissance de l'islam et surtout la pratique mal connue, déficitaire et accompagnée par plusieurs bid'ahs. Que peut-on faire ?
Ah, c'est sûr qu'on ne sera jamais satisfait de notre niveau d'islam. C'est bon ? Le musulman, il se fait toujours petit pour toujours grandir. Si tu dis « c'est bon, je sais tout », tu ne chercheras pas à savoir plus. Et tu fais un péché qui s'appelle la suffisance et tu mens. Car lorsque Moussa alayhi salam a été questionné par les enfants d'Israël, est-ce qu'il y a quelqu'un de plus savant que toi ? Il a dit, oh non, il y a plus savant que moi, ça n'existe pas. Allah, il lui a donné une leçon. Il lui a dit, si, il y a un homme plus savant que toi. Et à la fin, Moussa alayhi salam dira al-Khadir, ton savoir est mon savoir et le savoir de tous les êtres humains sur terre par rapport au savoir de Dieu, c'est la goutte d'eau que cet oiseau vient de prendre de l'océan. Est-ce que ça diminue quelque chose à l'eau de l'océan ? Rien du tout. On est nul. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. On est d'accord ? Donc, on ne sera jamais satisfait. Walakin, soyons justes quand même. Les jeunes musulmans et musulmanes qui fréquentent la mosquée, qui font la prière de manière assidue, ils font le ramadan, ils font même le pèlerinage et des umrahs, ils sont en conférence, tu rentres chez eux, il y a des livres. Je suis désolé mon frère, ils ont un bon niveau d'islam, ils ne sont pas nuls. Il faut arrêter de rabaisser les gens et de les considérer comme des gens bêtes. On a un très bon niveau d'islam. Allez, je vais vous rajouter une couche, vous permettez ? On doit connaître certains parmi nous, voire même beaucoup parmi nous, connaissent sans doute plus de hadith que certains compagnons. Mais oui. Alors, je vous croyais que les compagnons connaissaient beaucoup de hadith, c'est faux. Certains compagnons connaissaient beaucoup. Abu Huraira, Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abdullah ibn Omar, Abu Sa'id al-Khudri, Zayd ibn Sabit, Anas ibn Malik, Salama, Aisha. Mais monsieur tout le monde parmi les sahaba, non. Beaucoup de sahaba ignorer des hadiths que vous, aujourd'hui, vous connaissez de manière... Des hadiths pour vous, que vous connaissez depuis l'âge de 10 ans. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de livre. Il n'y avait pas de livre de hadith. C'est le prophète parler. T'es là, t'as entendu. T'es pas là, t'as pas entendu. Tout simplement. Ben oui, vous êtes comme les autres. Non, attention. Alhamdulillah, vous avez un bon niveau. Walakin, goulaykum saraha. La science religieuse est trop bonne. On ne doit jamais être rassasié. Vous avez compris ? Waqul rabbi zidni. Si vous devez demander à Dieu d'augmenter quelque chose, dites-lui d'augmenter votre science religieuse. Ouais. Parce que c'est ce qu'il y a de meilleur. Car plus tu connais Dieu, plus tu l'aimes. Et ou non ? Plus tu lui obéis. Inna ma yakhshallaha min ibadihi. Ceux qui sont le plus enclins, c'est-à-dire ceux qui ont le plus de capacité, de moyens, de bien connaître Dieu, si bien qu'ils vont le craindre et ne pas lui désobéir, ils vont l'aimer, lui obéir, ce sont ceux qui le connaissent le mieux, ceux qui ont le plus de science. Innama al-ilmu al-khashiya, dit Abdullah ibn Mas'ud. La science, c'est celle qui mène à la crainte de Dieu. Donc, nous avons besoin de raviver notre foi en permanence à travers l'acquisition du savoir religieux, la hikma. Ouais, la parole de Dieu, la parole du prophète, alayhi salam. Donc, apprenons. Maintenant, la bid'a, sachez qu'effectivement, il y a beaucoup de musulmans qui commettent une erreur grave, des erreurs graves. Et cette erreur, c'est ce qu'on appelle la bid'a, l'innovation, qui est pire que le péché en lui-même. Vous buvez un verre d'alcool, vous savez que l'alcool est haram, vous savez que ce que vous avez fait est haram. Vous allez regretter, vous allez pleurer, vous allez tout faire pour arrêter. On est d'accord ? Il n'y a aucun musulman qui boit de l'alcool et qui pense que c'est halal. Si ça existe, c'est un mécréant. Car il autorise ce que Dieu interdit. La plupart des musulmans qui boivent de l'alcool, c'est par péché, par ignorance, par faiblesse, par tout ce que vous voulez. Mais écoutez maintenant. Le danger des dangers, c'est que tu fasses un péché que tu ne sais pas que c'est un péché. Tu ne cherches pas à t'en débarrasser. Ça s'appelle la bid'a. C'est que tu sois à côté de la plaque et que tu penses que tu es dans le droit chemin. C'est une catastrophe. C'est pour cela, c'est l'arme préférée du diable. Mettre le musulman dans l'ignorance, si bien que le musulman pense bien faire alors qu'il est à côté de la plaque, il est dans l'errance. C'est pour cela, il faut bien connaître sa religion pour ne pas perdre son temps. Tu t'imagines, pendant 20 ans, tu fais quelque chose et après, tu découvres que c'était pas bien. Oh punaise, tu me diras... La bonne intention, elle a quand même sa place et sa valeur. Mais faites attention, ne jouez pas avec la bid'a. Il faut combattre les bid'a, car les bid'a mènent à l'égarement. Et l'égarement mène à l'enfer, dit le prophète, alayhi salatu wa salam. La question maintenant, c'est quoi une bid'a ? Vas-y. Oui. Très bien. Donc des non-musulmans qui nous disent, déjà entre vous musulmans, vous n'êtes pas d'accord. Voilà. Tu lui renvoies l'ascenseur. Tu lui dis, bah, vous aussi les non-musulmans, vous n'êtes pas d'accord entre vous. Ouais. Vous êtes chrétien, vous en avez des centaines de sectes. Vous êtes juif, vous en avez autant. Vous êtes athée, vous en avez autant. Mais c'est logique et normal que tous les êtres humains ne soient pas d'accord sur tout. Tu n'es même pas d'accord avec ton père et avec ta mère parfois. Oui ou non ? Parfois, tu n'es même pas d'accord avec toi. Aujourd'hui, tu penses comme ça, le lendemain, tu dis « Ah, j'étais bête hier, j'ai pensé mal. » Oui ou non ? Donc, vous voyez que la divergence, c'est quelque chose de normal et de naturel. Et entre nous musulmans, effectivement, on n'est pas des clones. Ouais. On s'entend sur pas mal de choses. Et parfois, on n'est pas d'accord sur certaines choses. Tant qu'on s'entend sur l'essentiel... qui sont les fondements de la croyance, les fondements de la pratique et les fondements de la morale, alhamdoulilah, on est tous bien guidés. Et on est dans le même bateau. Le danger, c'est quoi ? C'est que ta aqida soit fausse, mauvaise, ta croyance. Ouais ? Et que tu ne pratiques pas ou que tu considères que les pratiques fondamentales ne sont pas fondamentales. Là, c'est de l'égarement, c'est de la mécréance, c'est du kofr. Mais quand tu es à l'intérieur du cercle, et à l'intérieur, on n'est pas d'accord sur tout, sur beaucoup de choses, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Il faudrait définir ce que c'est que la bid'a. Il y a deux types de bid'a. Il y a une bid'a idafiya et une bid'a tarkiya. C'est-à-dire, tu ramènes quelque chose qui ne fait pas partie de l'islam et tu dis que ça fait partie de l'islam. Hein ? Innovation. C'est-à-dire, un corps étranger à l'islam, que ce soit dans la croyance ou la pratique, Et tu dis que ça fait partie de l'islam. C'est une innovation, une bid'a. Maintenant, il y a une autre forme de bid'a. Quelque chose qui fait partie de l'islam, et tu le retires de l'islam en disant que ça n'en fait pas partie. Ça aussi, c'est une bid'a. C'est-à-dire, soit tu ramènes un élément étranger et tu déformes l'islam en lui rajoutant un corps étranger, ou soit tu retires de l'islam quelque chose qui fait partie intégrante de l'islam et tu considères que ça ne fait pas partie de l'islam et tu l'as quoi ? Tu l'as déformé, tu l'as diminué. Donc dans les deux sens, c'est une bid'a. On est d'accord ? Deuxièmement, la bid'a est sujette aux cinq catégories qui existent en islam. Il y a la bid'a haram, il y a la bid'a déconseillée, il y a la bid'a autorisée, il y a la bid'a recommandée, il y a la bid'a obligatoire. Ouais. Oui, oui. Tout à fait, obligatoire. Ah, bien sûr. Il y a des choses nouvelles, si tu ne les fais pas, c'est grave. Ouais, c'est très grave. Maintenant, on est allergique au mot bid'a. On croit que bid'a signifie tout ce qui est mauvais. C'est faux. Le terme bid'a, ouvrez bien vos oreilles, signifie quelque chose de nouveau. Et vous savez ce que l'islam condamne ? C'est quelque chose de nouveau qui est contraire aux religieux. Ouais. Mais quelque chose de nouveau qui fait partie de la religion, c'est pas interdit. Oh là là, tu nous as mis dans le gaz, on comprend plus rien. Ouais, je le sais, il faudrait du temps, il faudrait 4 à 5 heures pour bien définir ce que c'est que la bid'a. C'est juste pour vous dire que c'est pas noir ou blanc. Vous comprenez ? C'est une bid'a. Donc je répète, le frère dit un exemple tout simple. Il y a une tradition dans le Maghreb, c'est que après la prière du Maghreb, des gens restent à la mosquée et lisent 1/60 du Coran. On appelle ça un hizb. Et le matin après Sobh, ils lisent 1/60 du Coran. En une journée, ils lisent un juz, et en un mois, ils ont lu le Coran en entier. Et ils font ça toute l'année. En un an, ils lisent 12 fois le Coran. C'est ancestral. Certains te disent c'est une bid'a. Et c'est vrai que c'est une bid'a. Le problème, c'est pas est-ce que c'est une bid'a ou non, puisque c'est clair que c'est une bid'a. C'est nouveau. Le prophète l'a pas fait, les compagnons l'ont pas fait. Le problème, c'est est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise ? Pourquoi il faut rajouter bonne ou mauvaise ? Parce que si tu me dis tout ce qui est nouveau est condamnable, t'es pas clair. T'es pas clair ? Je te tue. Je sors l'artillerie lourde, t'es mort. Pourquoi ? Bah regarde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam décède. Omar vient voir Abu Bakr, je résume. Il lui dit, ya Abu Bakr, il faut faire quelque chose d'urgence. Il lui dit quoi ? Il lui dit, le Coran, il faut faire un livre. Le Coran, il existe dans la tête des gens, certains, le Qurra, ils sont en train de mourir par milliers. Il existe de manière écrite, mais chez toi, tu as 10 sourates, lui, il y en a une, l'autre, il y en a un quart. Il faudrait qu'on fasse un livre. Un Coran sous forme de livre n'existait pas, comme c'est le cas aujourd'hui, un Mushaf. On est d'accord ? Très bien. Qu'est-ce que vous en pensez ? L'idée d'Omar, elle est bien ou elle n'est pas bien ? Elle est bien. Niet, lui dit Abu Bakr. Non, je veux pas. Omar lui dit, pourquoi ? Il lui dit, le prophète l'a pas fait. Allahu Akbar. Le prophète l'a pas fait. Donc je le fais pas. Omar lui dit, je vais argumenter, ouais. Imaginez-vous le dialogue. Ils sont pas seuls, hein. Ils sont en train de mourir, là. À la bataille du Yamama, il y en a 500 qui viennent de tomber, ceux qui connaissent le Coran par cœur. Encore deux batailles comme ça, on n'a plus quelqu'un qui connaît le Coran par cœur, qui va, le Coran va disparaître. Écrit, il est éparpillé. Pour l'avenir de l'islam, pour protéger, il faudrait? Non, le prophète l'a pas fait. S'il te plaît. Et il va y avoir un échange. Et vous savez ce que lui dit Omar? Regardez bien. Regardez là, je vais vous utiliser le terme exact que Omar ramène à chaque fois quand Abou Bakr lui dit « Huwa khayrun ». C'est du bien. Tu vois ? C'est du bien. Il n'y a pas de mal. Et à la fin, qui l'a emporté ? Abou Bakr ou Omar ? C'est la vie de Omar qui l'a emporté. Très bien. Est-ce que vous croyez que Zayd ibn Sabit, qui a été désigné pour faire un livre, est-ce que vous croyez que le Coran, il l'a écrit comme il écrit maintenant ? Si vous me dites oui, c'est que vous êtes nul. C'est faux. Jamais le Coran n'a été écrit comme ça. Ils l'ont écrit au début, sans ponctuation. Sans ponctuation. Seulement après, ils vont te mettre les points diacritiques. C'est quoi les points diacritiques ? Le bas, c'est un point en bas. T'enlèves le point, tu le mets en haut, ça fait ? Non. C'est ça ? Tu mets deux points en bas, ça fait ? Ya. Moi, je t'écris une phrase en arabe, je te mets aucun point, t'es dans le gaz ou t'es pas dans le gaz ? T'es dans le gaz. Oui ou non ? Lis-moi le Coran sans point. C'est pas le Coran que tu lis, c'est du charabia. Très bien. Allez, on va jouer au malin. Je te mets les points, je t'enlève le O, le A, l'in, un, an. Tu fais quoi ? T'es mort ! T'es mort, tu peux pas le lire. Parce que l'arabe, il faut le comprendre avant de le lire. Eh ben, vous savez, le Coran comme il est aujourd'hui, ouais, beau, mignon, ouais, avec un verset, t'as un petit truc qui te dit stop, le verset il s'arrête là, ouais, tout ça c'est une bida. Bida puissance 1000. Tout au long de l'histoire du Coran, les savants n'ont fait que faire des bida dans le Coran. Pourquoi je vous dis c'est une bida? Parce qu'il y a des savants qui étaient contre! Qui étaient contre de mettre le A, le OU, le IL, le AN. Ils étaient contre. Il y a des savants qui étaient contre de mettre verset numéro 1, 2, 3. Il y a des savants qui étaient contre de mettre le nom de la sourate. Il y a des savants qui étaient contre de mettre des couleurs. Tout ça, il y a des savants qui se sont opposés. Vous savez pourquoi ils se sont opposés ? Parce qu'ils disaient que le Coran doit être transmis de maître à élève. Si tu remets le Coran entre les mains des gens, c'est une catastrophe, parce que même si je te mets les points, les lettres, etc., tu vas le lire. Si tu viens de te convertir à l'islam et t'as été faire un mois d'arabe, et t'es un balèze, qu'est-ce que tu vas dire ? Bismillahirrahmanirrahim, qaf. Non, tu vas pas dire qaf. Tu vas dire qaf. Comprenez, hein, ouais. Même pas, t'es pas converti, t'es un arabe, toi, là. Ouais. T'as jamais prononcé le mot Qalb. Un jour, il y en a, il a récité Inna fidelika la dhikra li man kana lahu kalbun aw al qasama wa huwa shahid. Regardez, ils ont rigolé. Les traîtres, ils ont capté tout de suite. Ouais. C'est un rappel pour celui qui a un chien. Le Coran est un rappel pour celui qui a un kalb. Parce que, au lieu de dire qalb, il a dit. Regardez. Qa, ka. Qa, ça donne le cœur. Ka, ça donne le... Ben voilà, vas-y, lis le Coran tout seul. Tu le lis tout seul, tu fais des... Moi, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée à moi il y a 30 ans. 1980-81. À la mosquée à Lourche. On avait un imam skin, l'aral. Vous savez, les imams qui te connaissent le Coran par cœur, mais qui comprennent. Quand il récitait « Sabbih isma rabbika la'ala ladhi khalaqa » Regardez. « Wa ta'kuluna » Non. Non, pas ça. C'est le Fajr. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّنْ وَتَأْكُلُونَ Non, lui, il disait pas تَأْكُلُونَ, il disait تَأْكُلُونَ وَرْش تَأْكُلُونَ التُّرَاثَ التُّرَاثَ Le fric, l'héritage, l'argent. Vous savez, lui, comment il le disait ? وَتَأْكُلُونَ التَّوْرَاثَ أَكْلًا لَمَّنْ Il a rigolé. L'arabe a rigolé. Et vous mangez la Torah avec appétit. Wallah, à chaque fois qu'il a récité, je lui disais, ah mais, c'est وَتَأْكُلُونَ التَّوْرَاثَ Wallah l'adim. À chaque fois que je lui disais, il s'énervait. Et encore aujourd'hui, Mskin, il est toujours vivant, Allah yahfdo. Il récite وَتَأْكُلُونَ التَّوْرَاثَ Encore aujourd'hui. Ça ne veut pas sortir de sa tête. Il comprend pas ce qu'il lit. tu bouffes un livre qui s'appelle la Torah, le livre des Juifs. Ça. Donc, vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, heureusement que les musulmans ont innové et inventé des choses pour l'intérêt de l'islam, tant que ce n'est pas en contradiction avec l'islam. Huwa khayrun, c'est un bien. C'est-à-dire, ça entre dans la philosophie musulmane, dans la pensée. C'est quoi l'islam? L'islam est venu nous indiquer. Oui. Donc, et c'est pour cela, quand on a fait la remarque à Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, les gens qui priaient pendant le ramadan, chacun tout seul. C'était le boxon dans la mosquée. Ça peut... Ouais. Imaginez, on fait le tarawih ici, chacun il récite tout seul. Il se passe quoi? Cacophonie, ça s'appelle. Omar il a dit, attendez, on va régler le problème, on va mettre un imam, Ubay ibn Ka'b, tout le monde fait la prière derrière lui. On lui a dit, c'est une bid'a. On lui a dit, c'est une bid'a. Parce que le prophète, il priait, les gens se sont mis derrière lui, une fois, deux fois, il a arrêté de prier. Il ne voulait pas que les nuits du ramadan, les prières se fassent dans sa mosquée, lui, imam, les gens derrière, par crainte que ça se termine par une obligation. Ben Omar, il a instauré ça. On lui a dit, ben non, attends, c'est contradictoire avec l'enseignement du prophète Abu Bakr. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, ouais, mais c'est bien. C'est une bonne... Dis le mot. Non. Il a dit une bonne bida. C'est-à-dire, c'est une bonne solution à un problème. D'accord? Et les savants sont divergents. Certains te disent ça, c'est une bida. L'autre, tu dis, ah non, non, pour moi, c'est pas une bida. Ça, c'est bon. Il y a l'ikhtilaf. C'est une longue question, la bida, mais bon.
Une question, mais je suis pas sûr de la véracité. Donc, le Mahdi est-il là, confère à Haroun Yahya?
Donc, le Mahdi n'est pas là. Le Mahdi, qui est un homme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité dans des hadiths qui sont sahih, quand tu les regroupes, ils sont sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira qu'il y aura dans ma communauté un homme qui fait partie de ma descendance, il portera mon nom, Mohammed, fils de Abdullah, il me ressemble physiquement, descendant de Fatima. Bref, il a décrit, vers la fin des temps, il régnera. Et quand il régnera, ce sera la justice sur terre, la terre va être généreuse, le ciel va être généreux, bref. Il va arriver... Et juste après lui, va arriver le prophète Issa, sallallahu alayhi wa sallam, qui va descendre à Damas, à l'est de Damas, là où se trouve la coupole blanche. Et ensemble, ils vont combattre Al-Masih Ad-Dajjal alatullahi alayhi. D'accord? Donc, ce n'est pas encore maintenant. On a encore du temps devant nous. Je crois que même on peut même mourir. Nos enfants peuvent mourir. Hein? Vous savez, quand le prophète Issa dit la fin du monde est proche. Ouais. Elle est... voilà, hein, la fin du monde et moi sont comme elle est si proche de moi, elle est aussi proche de moi que l'index est proche du majeur. Et, non, dans un hadith, in kadat la tusbiquni, elle a failli me dépasser. C'est-à-dire, la fin du monde a failli arriver avant même que je ne sois suscité. Tous ces hadiths, vous savez ce qu'ils veulent dire? Ils veulent dire, il ne reste plus beaucoup, mais ça fait 1400 ans. En fait, 1400 ans par rapport à des millions d'années, c'est rien du tout. Donc moi, je vous dis qu'il y a encore quelques centaines d'années. Allah Allah, peut-être que je dis n'importe quoi, mais vous avez le temps de crever, etc.
D'accord. Enfin, moi, je disais plus pour...
Et si Haroun Yahya a dit que le Mahdi était là, Haroun Yahya, c'est quelqu'un d'honorable. Il a sans doute fait un ijtihad, mais il s'est planté. Comme ils avaient dit aussi en 1989... Il t'avait sorti une série de bouquins, Al-Masih Ad-Dajjal est là, Saddam Hussein, c'est celui qui est cité dans le hadith du prophète alayhi salam, qui est dans le Sahih Muslim. Ne me dites pas, je ne vais pas vous les citer, vous allez... étant sorti des théories, bon, il s'est avéré que... En fait, ça ressemble un peu aux chrétiens qui disent c'est la fin du monde en 2011. Non, en 2000. Non, déjà en 2000, elle devait arriver. Ouais. Non, non, 2000, il y en a, ils sont sortis, galolés. Ouais. Alors, ça fait rire ou ça fait pas rire? Ça fait rire. Non, il déconne. T'es fou, 2010, j'ai un plan, là. Je dois aller en vacances. Ouais, c'est ça. Si au mois de mars, Sarko y repasse, c'est la fin du monde. La fin de notre monde économique, politique. Ça doit être ça, je pense. Non, mais vous rigolez. On rigole, hein, de ces rigolos qui disent que... Vous le dites à personne, vous le gardez pour vous. Hein. C'est juste pour que vous... Wallahi, il y a eu dans l'histoire de l'islam des grands savants musulmans qui ont dit la fin du monde, c'était tel jour, telle année. Et quand je vous dis des grands, attention. Hein. Je ne vais pas vous citer. Non, non, ce n'est pas une secte. Tu sais ce qu'il a fait? Il a fait un ijtihad. Tu me dis, ouais, mais Dieu dans le Coran, il dit qu'il n'y a que Dieu qui sait. Ah oui, oui, Dieu sait, effectivement. Mais il ne m'a pas interdit de savoir, puisqu'il m'a mis dans le Coran et dans des hadiths des signes prémonitoires. Et il t'a fait des calculs, et il t'a sorti, la fin du monde devait avoir lieu en l'an... Oui, il y en a qui se réveillent, qui te disent... voilà, ils se basent sur un rêve pour te dire... Tout ça, c'est du pipeau, c'est du baratin. Quel que soit le savant, on le respecte, on l'aime bien. Il a dit 99% de bonnes choses. Sur ce point, il s'est planté. C'est tout. C'est pas la fin du monde. Hein. Faut pas le dénigrer ni rien. Les Arabes disent les kulli jawadin kabwa. Un cheval, il a beau être balèze, un jour ou l'autre, il va se fouler la patte. C'est tout.
Savoir ce que dit l'islam à propos des jouets pour enfants, sachant qu'il y a des représentations humaines ou animales.
Alors, les jouets, à nouveau, les savants sont divergents. Oui, mon petit. Mashallah, il est toujours... Alors là, elle doit être fatiguée. Ouais, il est minuit. Ouais. Et elle s'est réveillée à sombre. Elle doit être dans le gaz. Je ne sais pas pourquoi elle ne marche pas, mon fils. Ouais. Allah alam. Les jouets pour les enfants. Les savants sont divergents. On est d'accord? Il y a un irtilaf. Certains te disent que c'est haram. D'autres te disent c'est halal et ils se basent sur le hadith de Aïcha radiallahu anha qui avait des poupées. Aïcha, elle avait des poupées. Hein, le banat, comme ça qu'il les appelait. Donc tant que c'est des jouets pour les enfants, il n'y a pas de problème. Mais chez vous, ne mettez rien en exposition. Vous savez, sur votre armoire, vous mettez des figurines, des petites statues, des statuettes. Tout ça, c'est haram. Hein. Les statues sont haram. Il n'y a aucun savant qui dit que c'est halal. C'est ce que c'est une statue. Hein. C'est quelque chose qui est fabriqué, qui représente un être humain ou un animal, un être animé qui a une âme et qui a une forme et une ombre. Mais si tu as une statue, c'est juste un buste, c'est halal. Hein, la moitié d'une statue, t'enlèves la tête, c'est halal. Ouais. T'as un cheval, tu lui coupes la tête, tu dis Bismillah Allahu Akbar. Non mais c'est vrai. Allahu Akbar, t'as pensé à moi, Jazakallah khairan. Allah ybarak fik, t'as fait une sadaqa. T'as dû te dire, le mec il parle trop, il doit être... Ouais, c'est vrai, j'ai chaud. Ouais, j'ai eu chaud toute la journée. Donc en ce qui concerne les jouets des gosses, c'est pas grave. Moi ce qui me dérange dans les jouets des gosses, c'est pas... C'est pas halal ou haram, puisque je dis à des savants. C'est le danger, l'impact de certains jouets sur le gosse, ouais, sur son équilibre psychologique, son équilibre intellectuel. Il y a des jouets, c'est une catastrophe. C'est, hein, j'ai l'électronique là. Ouais. Ah là là, si on pouvait revenir en arrière et donner à nos enfants des arcs et des flèches. Ouais. Non mais vous rigolez, c'est quand Yarab que j'ai vu? Attendez, c'est quand? J'ai plus de mémoire, je suis trop vieux. Ils avaient parlé, ah bah oui, voilà, c'est ça. J'ai pluché les pommes de terre, et il y avait une émission, vous savez, les émissions à la con là, qu'ils n'arrêtent pas de montrer en ce moment là, enquête, ouais. Même ils vont dans les quartiers, et c'est toujours des blacks et des arabes, ouais, enquête... Voilà, infiltration, tous ces trucs-là. Alors, c'était des jeunes à Marseille, ouais, des adolescents, 14, 15, 16 ans, ils ont buté un mec. Ils l'ont tué, hein. Ils l'ont mis une balle dans la tête. Et la Kalachnikov et tout, hein. Le psy, là, psy spécialiste de la criminalité, ils lui ont dit comment des enfants de cet âge-là se baladent avec des flingues et arrivent à tuer de sang-froid. Attendez, ils l'ont buté, ils l'ont pris, ils sont allés l'enterrer dans le... Comment ça s'appelle le petit jardin. Tu sais, vous avez des bâtiments. Ouais, le square. Les bâtiments, juste à côté, il y a de l'herbe et puis quelques arbres. Donc, ils l'ont enterré. Feignant, ils n'ont pas creusé profond. Ouais. Donc, le corps est remonté après la pluie, etc. Et c'est un passant qui l'a trouvé. Bon, ils se sont fait arrêter. Et le mec, il dit, comment ? Parmi les raisons qu'il a avancées, c'est les jeux. Les jeux. Le gosse tout petit, il tue. Vous avez vu les jeux là ? Tu tues, tu passes dans l'autre monde, tu tues, tu passes dans l'autre monde. C'est ça ? Même en conduisant, il tue, il fait des accidents. Une fois, j'étais en Égypte, il n'y a pas longtemps, avec mon fils. Il y avait plein de gosses dans les cyber là. On attendait notre tour, ils jouaient à quoi, à votre avis ? Et regardez, hein. C'est bien fait. Je savais pas que c'était comme ça, les jeux. Le mec, c'est lui. C'est-à-dire, le tcho, il est dans la peau de celui qui est dans... Ou c'est l'autre qui est dans la peau du gosse. Vous voyez quoi ? Et il tire. Pendant une heure. Ah ben ça, ça fait des dégâts. Hein ? Tuer, la mort, ça dérange plus. Deuxième explication, les films. Et ils ont montré le cas de Montana, c'est ça ? Scarface. Ouais. Là, il passait des trucs. Voilà. C'est... Donc faites attention à vos gosses. Ne laissez pas jouer vos gosses avec n'importe quoi. C'est très nocif, c'est très dangereux, c'est mortel, c'est destructeur. C'est tout ce que vous voulez, sauf quelque chose de positif. Tu vas me dire, ouais, mais attends, on peut jouer aux arcs et aux Indiens. Ok, j'accepte. Il n'y a même pas de place, il n'y a même plus d'armes pour jouer aux Indiens, aux cow-boys. Tu leur fais faire du sport, sauf le foot. Non ? Sinon, il va finir avec des maillots et des trucs. À la rigueur, s'il joue le foot et il l'adore pas, ça va. Le Mont-Séba, c'est que nos jeunes aujourd'hui, leur religion, c'est devenu le... Et il aime et il déteste en fonction du foot. C'est plus le Hubbou Fillah ou le Bordeaux Fillah. Il aime telle équipe, même si c'est des alcooliques. Il aime tel joueur. C'est un homo, un pédophile, un alcoolique, un adouallah, il l'aime. Vous avez vu le foot, ce qu'il arrive à... Ouais. Il développe le racisme, c'est ça ? Et le nationalisme. Hein ? On vous a battu la semaine dernière. Non, c'est nous qui avons gagné il y a cinq ans. C'est pas ça ? C'est pas honteux. C'est pas bas. Des musulmans qui se disputent, qui se prennent la tête parce que telle équipe a gagné ou a perdu. Et l'objectif, c'est d'égarer les gens. L'objectif, c'est de détourner les gens de l'essentiel. Karl Marx a dit au XIXe siècle, je vais faire oublier aux gens Dieu. Hein ? Karl Marx, il a dit, je vais faire tout pour que les gens oublient Dieu. On le dit comment ? Il a dit avec le théâtre. Il n'y avait pas de télé à son époque. Avec le théâtre. Au lieu que les gens aillent à l'église, ils vont aller au théâtre. Vous entendez ? Karl Marx, s'il était présent aujourd'hui, il dirait, je vais faire oublier Dieu aux gens avec le foot, avec Wimbledon. C'est ça ? Non, c'est pas qu'il y en a encore. Il y en a plus et ils sont pires. Ils sont plus sophistiqués, plus intelligents. C'est lui. Arrêtez-le.
Hassan, pour terminer, parce que ça va être l'heure de l'Aïcha. Et une dernière question, c'est qu'est-ce que le salafisme ?
Ouais, deux. Alors, On a un grand problème en France. Les traîtres, ils traduisent pas les concepts et les mots. Ils te les retranscrivent phonétiquement et ils leur donnent le sens qu'ils veulent, si bien que ça égare les gens. Par exemple, le mot islam, c'est pas du français, c'est pas du latin, c'est pas du grec. Vous comprenez? Et ils font exprès d'utiliser des mots arabes que le public ne comprend pas et c'est eux qui donnent la définition du mot. Et même si le mot, ils lui donnent une définition plus ou moins correcte, ils finissent par lui coller ce qu'on appelle une connotation péjorative. Ouais, une connotation péjorative. Si bien que tu entends le mot, tu as la chair de poule, tu khla'. Tu dis à un non-musulman « jihad », il fait des bons. Il a peur, tu l'as piqué. Tu lui dis « charia ». Oh, la charia, elle est là, il est là. Ouais. Vous... Oui, oui. Encore intégriste et du français, ça va. Mais le mot charia, charia, tu t'imagines, toi, tu parles à quelqu'un, tu dis charia. Ikhla, c'est du chinois. Mais du chinois empoisonné. Et c'est une stratégie, hein, de leur côté. C'est une stratégie. Pour ça, moi, quand j'ai devant moi des non-musulmans, je dis, je vais vous expliquer certains mots avant de vous parler. Islam. Vous, dans votre tête, islam, ça veut dire ça. Mais je vais vous dire, c'est faux. Je vais vous donner la vraie définition d'islam. Et tu sais ce que j'ai dit, pour vous donner sa vraie définition, je vais vous le traduire. Parce que le mot islam, c'est de l'arabe. Je vais vous le dire en français. Croire en Dieu et se soumettre à lui dans la paix. Elle est longue, la phrase. Hein, vous avez compris comment? Ah, oh, c'est ça? Bah, nous aussi, on croit en Dieu. Nous aussi, on essaie de se soumettre à lui dans la paix. Vous avez compris ce que je viens de faire? Je les ai rapproché de moi. Ta'ala wi la kalimatin sawa'an baynana wa baynakum. C'est vrai qu'ils ne croient pas en Dieu comme moi. C'est évident. Hein. C'est vrai qu'ils ne se soumettent pas à Dieu. Ils sont égarés. Hein. Mais là, j'ai cassé le mur de la peur, de la crainte. Et une fois que j'ai cassé ce mur, là, je lui fais la da'wa. Je lui dis, voilà qui est Dieu. Ouais. Voilà comment on doit adorer Dieu. Voilà ce que c'est que la croyance au prophète. Et wallah, ils sont obligés à la fin de dire. Ouais. Ouais. Ils sont obligés de reconnaître. Ils ne peuvent pas te dire le contraire. Là, il y a, la semaine dernière, j'étais à La Roche-sur-Yon. Il y avait des chrétiens. Je leur ai expliqué l'islam. Je lui ai dit, dites-moi si tout ce que je viens de dire est faux. Il n'y en a pas un qui a levé la main. Je lui ai dit, vous n'osez pas parler? Prenez un papier, écrivez-le. Ils sont obligés de reconnaître. On croit en tous les prophètes. Le problème est réglé. Donc, quand vous parlez à quelqu'un, n'utilisez pas des mots que vous comprenez d'une manière et lui, il les comprend d'une autre manière. Si toi, ton père, depuis que tu as un an, il t'a dit que cette couleur, c'est le rouge. Moi, il m'a dit que c'est le noir. Quand j'utilisais le mot noir, tu vois quoi, toi? Tu vois rouge? Et voilà, on est cuit. Moi, mon père, depuis que je suis petit, il m'a dit qu'une voiture, c'est une vache. Tu imagines si j'étais au bled en voiture? Tu rigoles? Mais il est malade, celui. Il était au bled avec une vache. Vous comprenez le problème du vocabulaire? Il est très important. N'utilisez des concepts que si et seulement si vous les expliquez à votre interlocuteur, sinon c'est un dialogue de sourds. Le mot salafi veut tout dire et rien dire. Ça dépend qui c'est qui l'emploie. Alors, regardez ce que veut dire le mot salaf. Le terme salaf en arabe veut dire ceux qui étaient avant. En français, on dit les ancêtres, les aïeuls, les anciens, les prédécesseurs. Vous voyez, il y a plusieurs mots. Le mot salaf, c'est le contraire du mot khalaf. Khalaf veut dire ceux qui viennent après. Ouais, les descendants. La progéniture, les successeurs. Qu'est-ce que nous enseigne l'islam? L'islam nous enseigne que le Coran, c'est la parole de Dieu. Et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour nous guider sur le chemin qui mène à Dieu, à travers ses paroles, à travers ses actes et à travers ses approbations. On appelle ça la sunna. Cette religion qui est résumée dans le Coran, qui est résumée dans l'enseignement du prophète, nous a été transmise par une génération que Dieu a choisie, qu'il a protégée de l'égarement dans sa globalité, qui s'appelle les apôtres, les compagnons du prophète, en arabe on dit as-sahabatu radiallahu anhum, qui eux-mêmes vont transmettre cette religion à leurs enfants, à leurs élèves, à leurs contemporains. Cette génération, la deuxième, celle des compagnons, celle qui vient, on les appelle les tabi'un, ceux qui suivent, ceux qui viennent après les sahaba. Eux, ces tabi'un, ils sont les élèves des compagnons, les compagnons qui sont des exemples, des modèles vivants de ce que le prophète alayhi salatu wassalam a enseigné. Il les a fabriqués, le prophète. Et la religion se transmettait par la parole, mais aussi par le modèle et l'exemple. Ils ont été éduqués par les sahaba, comme les sahaba ont été éduqués par le prophète. Ils vont voir eux-mêmes des enfants et des élèves. On les appelle les tabi'ou tabi'oun. Dans la troisième G. On parlait français, c'est ça? Ben, sachez que ces trois générations ont un statut particulier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la meilleure des générations, c'est la mienne, vous, les compagnons, et celle qui viendra après, celle qui viendra après. Voilà. Mais quand on parle de la première, deuxième, troisième génération, est-ce que vous croyez que c'est 100% de la population musulmane? C'est faux. C'est l'élite. Eh oui, vous rêvez. Mais vous rêvez. Parce qu'au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des compagnons, puis il y avait des gens qui n'étaient pas des compagnons, qui n'étaient pas terribles. Et après les tabi'in, vous croyez que tous les musulmans étaient au même niveau? Non, c'est faux. C'est l'élite, c'est la crème, c'est ceux qui avaient la science, la piété et la pratique et qui ont bien compris et qui ont transmis. C'est ça que veut dire la première, deuxième et troisième génération. C'est pas admettons, les 12 millions d'habitants qui existaient entre l'année 40 et l'année 60. Parce que parmi les 12, t'as des rigolos, t'as des buveurs d'alcool, t'as des... Ah oui? On est d'accord? Très bien. Qu'est-ce que nous enseigne notre religion? Nous enseigne que ces gens-là, ils étaient les mieux placés pour mieux comprendre la religion et ils sont sans doute ceux qui l'ont le mieux pratiqué. Pourquoi? Parce qu'ils sont proches de la source. Et la religion, ils ne l'ont pas apprise uniquement par la voie de l'oral, mais ils l'ont pris par... Tu regardes le compagnon qui prie, qui a vu le prophète prier. Ça a plus d'impact sur toi que de t'expliquer la prière. Tu vas oublier la moitié, tu vas mal comprendre. Je vais oublier la moitié, je vais me planter. C'est pour ça que ces générations-là avaient leur poids et leur importance. Et d'ailleurs, Allah les a choisis. Abdullah ibn Mas'ud dit, si vous devez prendre des gens comme exemple, prenez les compagnons comme exemple. Ce sont les gens qui avaient le cœur le plus pur. Ils ont été élus par Dieu pour être les élèves de son prophète, alayhi salam. Vous me suivez? Ces gens-là, on les appelle les salafs. Et on rajoute un adjectif, les salafs salih. Les anciens qui étaient bons. Parce que tu as des salafs talih. Talih, c'est le contraire de salih. Tu as des anciens qui étaient tordus. On va prendre les anciens tordus comme exemple? Non, on prend les anciens qui étaient bons comme exemple. Vous me suivez? Voilà. Donc, tous les musulmans qui ont un peu de savoir et d'intelligence sont tous salafis. Puisqu'on aime tous les compagnons et on doit les prendre comme exemple, on aime tous leurs élèves. Non, c'est pas vrai, je suis un menteur. Comment tu peux aimer quelqu'un, tu le connais pas? C'est pas possible. Vous avez vu qu'on a un gros problème? On doit d'abord se mettre au travail, apprendre, connaître les compagnons, faire la biographie, la vie des compagnons. pas tous. Il y en a 12 000 dans le livre de Ibn Hajar. C'est rien. Je vous recommande un livre qui s'appelle Les Compagnons du Prophète, édition Tawhid. Il y en a 70, les plus. Ouais. Vas-y. Allah l'adim, tu vas lire le premier, tu vas tomber amoureux de lui. Tu vas lire le deuxième, tu tombes amoureux. Ils sont trop beaux, trop forts, trop puissants. Après, tu vas lire les élèves des compagnons. Ah, tu vas dire, c'est pas possible. Encore les compagnons, tu dis, ouais, c'est normal, ils ont vu le prophète. C'est ça? Tu fais quoi avec les tabi'ines qui n'ont pas vu le prophète, mais qui ont vu? Allah, t'es obligé de les aimer. Harim ibn Hayyan. Va lire la vie de Harim ibn Hayyan. Allah, tu fais ça, tu flippes, tu dis, je suis un mécréant, moi. Va lire la vie de Thabit al-Bunani, l'élève de Anas ibn Malik. T'as honte. Va lire les élèves des tabi'ines. Une fois que tu les connais, tu les apprécies, tu les aimes, et tu essaies de leur ressembler. Quand on aime quelqu'un, on essaie de... Mais ou non? Pourquoi tous les choses, ils ont le numéro 10? Massi. C'est ça? C'est Massi qui s'appelle? Messi. C'est pas Massi. Messi. Messi. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'il l'aime. Vrai ou faux? Parce que c'est une star. Omar ibn al-Khattab. Et je dis n'importe quoi, Allahu Akbar. Oh là là, je viens de vous donner une idée de ta'assa. Et pourquoi on ne sortirait pas une ligne de maillot avec des noms de compagnons dessus? Non, tu ne joues pas au foot. Mais tu arrives, tu rentres quelque part et je vois sur ton maillot, c'est écrit Khabbab ibn al-Aras. Tu regardes comme ça. Tu dis, c'est qui celui-là? Et tu m'envoies une piqûre. Donc, tout musulman normalement constitué ne peut être que salafi, dans le sens où il se réfère aux premières générations et il les aime. On est d'accord? Vous avez compris ce que veut dire réellement le terme salafi? Maintenant, le terme salafi, pour certains, il veut dire autre chose. Pour certains, le terme salafi signifie des opinions qu'il a dans certains domaines de la religion. Et celui qui ne les a pas, il le considère comme un égaré. Vous avez compris? Pour certains, le terme salafi signifie il a des interprétations, des opinions, il a des choix. Hein, il a fait des choix dans des questions de divergence. Il a fait des choix, que ce soit au niveau de la aqida, que ce soit au niveau de la pratique. Et si tu ne partages pas ces choix qu'il considère comme étant les vrais, parce qu'il les tire, d'après lui, des premières générations, alors il te considère, toi, comme étant quelqu'un qui ne suit pas les premières générations, donc quelqu'un d'égaré. Voilà, pour certains, c'est ça que ça veut dire. Exemple, l'histoire du pantalon tout à l'heure, si le frère, il considère qu'en dessous du pantalon, c'est haram, parce que Ali ibn Abi Talib le mettait ici son pantalon, d'accord? Donc il te considère toi comme étant non salafi parce que tu ne suis pas Ali ibn Abi Talib. Un jour j'ai bu de l'eau et j'étais debout. Le frère il m'a dit, assieds-toi. Je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, la sunna du prophète alayhi salam, c'est de boire assis. Je lui ai dit, c'est vrai, je connais le hadith où le prophète alayhi salam a dit à un homme qui buvait debout, assieds-toi. Et dans un autre hadith, il a dit, si tu bois debout, vomis. Ouais. Pour insister sur le fait que c'est pas bien de boire debout. Et certains te disent c'est haram de boire debout ou de manger debout. Ouais. Ali ibn Abi Talib, il fait l'eau, il finit de faire l'eau, il lui reste de l'eau, il se met debout, il prend l'eau, il la boit. Il dit, vous savez pourquoi j'ai bu cette eau maintenant? Pour vous montrer que boire debout, c'est ça la sunna du prophète, parce que j'ai vu le prophète, il a fini l'eau, il a pris de l'eau debout, il a bu debout. Vous comprenez le problème où il est? Le problème, il est là. C'est que certaines personnes ont des choix. On fait des choix, ils ont écouté un savant, ils lui ont posé une question, il leur a donné son opinion en disant que c'est ça la vérité, parce que voilà la preuve, et il considère que toute personne qui ne va pas dans son sens, il est à côté de la plaque. Voilà. Ben, si c'est ça, être salafi, ça, c'est de l'ignorance et de l'intolérance. C'est même de la bêtise. La preuve, je bois debout, je suis qui? Ali, Ibn, Abi Talib. Ah, mais tu ne suis pas le hadith du prophète. Ah, donc Ali n'a pas suivi le hadith du prophète. C'est ça? Non. Allah l'adim. Plus tu entres, tu mets ton nez, plus tu découvres que il y a de la place pour tout le monde. Tu veux boire debout, bois debout, mon frère. Tu veux boire assis, bois assis. Il y a les deux. Les savants sont divergents. C'est une question de quoi? C'est impoli. Avant, c'était un manque de politesse que de manger dans la rue. Tu manges dans la rue, tu es quoi? Tu es mal éduqué. Tu manges debout, c'est mal vu. Non, avant, j'étais les Arabes. Tu sors la tête nue, c'est quoi? C'est un manque de... Ah oui, c'est grave, sortir la tête nue. Et aujourd'hui? Et au passage, même en France, il y a 50 ans, tu sortais pas la tête nue. Tu mettais toujours quelque chose sur la tête. Un chapeau, un béret. Même en France, il y a 50 ans, tu manges dehors, tu es un dévergondé. Vous n'avez pas vu qu'il y a beaucoup de choses qui font partie du domaine de l'ada, l'urf, les us et les coutumes. Et les us et les coutumes changent et évoluent. D'accord? Bon, je crois que c'est l'Aïcha. Aïe, elle n'est pas compliquée. Vite fait. J'ai compris. Donc peut-être qu'il y en a qui ne l'ont pas entendu. Le frère parle d'un frère qu'il connaît bien, qui néglige ses prières, qui ne les fait pas en temps et en heure, et il lui a donné des conseils, des facilités pour qu'il la fasse, tel, tu sors du boulot, tu l'as fait dans ta prière, tu l'as fait avec une pierre, pas du béton, etc., etc. Alors, c'est très bien ce que tu fais de conseiller les autres. Quand tu vois un musulman qui désobéit à Dieu, il faut le conseiller, il ne faut pas le laisser dans le péché. C'est très bien. Allah ybarak fik, si tous les musulmans faisaient cela, l'islam irait beaucoup plus vite et irait mieux. Ça fait partie des qualités fondamentales du croyant pour le préserver de la perdition. Cependant, continue à apprendre ta religion pour que tu aies des réponses et des solutions plus précises et plus justes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit priez debout, et si vous ne pouvez pas vous prier assis, et si vous ne pouvez pas vous prier allongé. Tant que le frère peut prier debout, il n'a pas le droit de prier assis. Sinon, sa prière n'est pas bonne. Donc, il est au travail, il n'arrive pas à prier sur son lieu de travail, il sort de son travail et il prie debout. Comme tu le dis très bien, il attend de rentrer chez lui à la maison et de prier debout. Donc, il n'a pas le droit de prier dans sa voiture assis. Il n'a pas le droit de faire le tayammum, puisqu'il peut faire sa prière en faisant le wudu et en priant debout. Le problème de ce frère... C'est quoi? C'est un manque de foi, un manque de pêche. Il est peut-être trop loin de la mosquée, trop loin. Il côtoie pas peut-être assez des gens qui sont rigoureux et fervents. Donc, à mon avis, il vaut mieux régler son problème, le vrai problème, qui est la foi. Ouais. Tu sais, quelqu'un, quand il a l'amour de Dieu dans le cœur, la peur de Dieu, il n'y a rien qui l'arrête pour lui obéir.
C'est ce que je lui dis, en fait. Tu me diras dans quelques jours. Tu te sentiras bien. Tu te sentiras plus fort qu'avant.
T'as essayé de l'aider, c'est bien, Allah ybarak fik. Mais comme je te dis, hein, si le frère, même quand il rentre chez lui à 3h30, il est fatigué, etc., le problème, c'est plus la prière au boulot ou non. Le problème, c'est vraiment un problème de foi. Et le problème de foi, ben, ça demande plus de boulot. Et comme il est minuit, on ne peut pas trop en parler. En tout cas, c'est bien, Allah ybarak fik. Mais entre nous, hein, tu peux faire la prière avec un morceau de béton. Hein. D'accord? Bah, je t'explique. Les savants, je t'explique. Les savants sont divergents. Ouais. Il n'y a eu que ça aujourd'hui, hein, cette nuit. Ouais. Le terme coranique qui te dit sa'idan tayyiban, tu vois le terme dans le Coran. On peut faire le tayammum avec as-sa'id at-tayyib. Certains veulent dire tout ce qui sort de la terre. Ouais, la terre et tout ce qui sort de la terre. D'autres te disent, oui, la terre et tout ce qui sort de la terre de manière naturelle sans qu'il y ait l'intervention de l'homme. Tu me suis? Voilà. Donc il y a certains qui te disent, uniquement ce qui sort de la terre et qui est pur sans intervention de l'homme naturel. D'autres te disent, non. Ça sort de la terre, c'est pur, même si l'homme l'a transformé, c'est toujours quelque chose qui vient de la terre et l'homme n'a fait que mélanger des choses qui sortent de la terre. Donc pas de problème, tu peux le faire avec le béton, inshallah. Ok. parce que ça vient de la terre. D'autres te diront non. Te diront un caillou, du sable ou de l'argile. Ouais. Naam. Non, il le fait. Oui, il le fait avec le sol. Ouais. Il touche le sol. J'ai compris. Pour se faire, pour s'essuyer. Ah, c'est pas la même chose. Attention. Quand on fait ses besoins, il nous est demandé de nous purifier. C'est-à-dire, il nous est demandé de prendre nos précautions pour ne pas souiller nos vêtements. C'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas de l'urine ou des excréments sur nos vêtements. Comment éviter cela? On utilise des objets. Ouais. Au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils utilisaient les objets de l'époque. Il va prendre une feuille d'un arbre, il va prendre un caillou, il va prendre un morceau de bois. Le prophète a interdit d'utiliser pour essuyer ses parties intimes les os, ouais, ou les bouses d'animaux sèches, car les os c'est la nourriture des djinns, la bouse c'est la nourriture des animaux des djinns. Ils utilisaient des cailloux, etc. C'est des gens dans la nature. Nous aujourd'hui, on ne va pas faire la sunna du prophète alayhi salam, utiliser des cailloux. Ouais. On va utiliser quoi? On va utiliser du papier. Ouais. Donc, le papier donne le même résultat. Entre nous, mieux ouais, que le caillou. Donc, on utilise le papier, c'est suffisant. Il y en a qui pensent qu'il faut utiliser de l'eau. Ouais. Tu vois, les gens rentrent dans les toilettes avec une bouteille d'eau. C'est faux. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'utilisait pas d'eau pour se laver après avoir fait ses besoins. Et les Arabes n'utilisaient pas d'eau. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils n'en avaient pas. Elle était trop rare, l'eau. Ils utilisaient des objets durs. Par contre, aujourd'hui, l'eau est très présente chez nous. Si tu utilises de l'eau, c'est le top. Il n'y a pas plus hygiénique que l'eau. Si tu n'en as pas, tu utilises autre chose. En l'occurrence, le papier. Et c'est suffisant. L'eau n'est pas une nécessité. Ce qui compte, c'est le résultat final. La pureté. Pas de souillure. Et vous voulez un conseil? N'utilisez pas de l'eau quand vous n'êtes pas chez vous. Parce que c'est le foutoir et le boxon. Le mec, il rentre dans les toilettes au boulot et il te fait une piscine par terre. Le mec... il vient chez moi, il sort des toilettes. Hala, je t'aime bien, mon frère, mais qu'est-ce que t'as fait là? Ouais? Ah, moi j'ai fait la sunna. Oh, pitié, prochaine fois fais une bid'a. Utilise du papier. Ouais? Nous, on nous a mis dans la tête, et c'est une erreur grave, qu'il n'y a pas d'istinja ni d'istibra sans eau. C'est faux. Ouais. Le papier est largement suffisant. Si vous rajoutez de l'eau, Allah ybarak. Ouais. À condition, Allah ybarak fikoum, un peu de respect des lieux. Ouais. Et si il y a eu un accident, il y a de l'eau qui est tombée par terre, nettoyez. Ouais. Ou excusez-vous. Allez, il y a une solution, mouiller le papier. Moi, je te dis que tu n'as pas besoin d'eau ni hayyan. Ouais. Maintenant, si tu mouilles le papier, bah, tant mieux. Moi, comme je te dis, moi, ça ne me dérange pas d'utiliser de l'eau. Je veux juste quoi? Je veux que tu m'utilises de l'eau de manière... Et ne devenez pas malade. Hein. Attention, hein, parce qu'il y a des hadiths qui vont dans ce sens. Des gens, ils sont trop méticuleux. Ah, il y a peut-être une goutte. Oh là là là, attention. Hein. Tous les savants sont d'accord que ce qui est infiniment insignifiant n'a pas d'impact. Hein. Rachache. Vous savez, vous urinez, il y a des petits trucs qui reviennent, c'est pas grave. Hein. D'accord? Tu le vois même pas. Ouais, mais on sait jamais. Il n'y a pas d'on sait jamais. Ouais? Chut. Vous allez vous compliquer la vie. C'est contre la sunna du prophète alayhi salam et les salaf salih. Omar ibn al-Khattab passe avec un compagnon, il y a une gouttière, il y a de l'eau qui tombe, qui l'éclabousse. Le compagnon Ka'b ibn Malik dit à l'autre qui est sur sa terrasse, dis-moi, est-ce que ton eau est pure ou impure? Est-ce que... Omar lui dit, ne lui réponds pas. Laisse-nous tranquille, ta Malik. Non mais sérieux, hein? Les sahaba n'étaient pas compliqués, c'est nous qui compliquons. Ouais. Ne lui réponds pas. Tu vas nous mettre dans la galère. Imagine-toi, tu te dis que c'est impur, on va devoir rentrer chez nous, nous changer. Laisse-nous dans la facilité. Allah ybarak fikoum. Il faut qu'on s'arrête parce que c'est l'Aïcha. Il y en a qui doivent bosser demain.
Ça n'oublie pas les avocations pour les
oui.
différents...
Oui, pour toutes
qui a de naissance, un mariage et pour le...
Alors c'est qui la naissance?
La naissance, c'est la fille à Mustafa, Badash.
Mustafa, Allah ybarak, la famille Badash.
Il y a Mustafa. Une autre sœur, tu sais, deuxième? Mohamed Rabia. C'est une sœur Rabia qui a eu un enfant.
Un et petit le mariage. Garçon, une petite fille. Un petit garçon. Et le mariage.
Le mariage du frère Nassim, Mashallah, qui est si présent. Mashallah.
اللهم صل على
سيدنا
وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك لهم في أرزاقهم اللهم احفظ لهم أولادهم اللهم انبتهم نبتا حسنا اللهم اجعلهم مسلمين مؤمنين مجاهدين في سبيلك اللهم احفظهم من شياطين الإنس والجن اللهم ارحم من علمنا وارحم والدينا كما ربونا صغارا اللهم بارك له في زوجته اللهم بارك لها فيه اللهم اجمع بينهما في خير اللهم ارزق لهما ذرية صالحة اللهم اصلحه لزوجته اللهم اصلحها لزوجها اللهم اشفيه وعافيه اللهم ارزق له الصبر والسلوان اللهم طهره من ذنوبه وبارك له في صحته اللهم انصرنا على من عدانا اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي ليبيا واليمن وفي سوريا والبحرين وفي كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.